Bon lundi. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 101 pour ceux qui se branchent. Bienvenue à l'émission On en jase, ton résumé d'actualité du midi. On parle beaucoup de politique locale. On va parler beaucoup d'enjeux aujourd'hui, d'enjeux avec nos enfants, les médias sociaux, les vapoteuses, les armes dans les écoles, les boissons énergisantes, évidemment. Ah, c'est aussi grave qu'un pamplemousse.
Ça, c'est le pire.
Ouais.
Les pamplemousses.
Je pense que j'avais jamais entendu une déclaration politique aussi poche. Toi, Anto, qui travaille en politique, là, tu sais, c'est... J'essayais de me remémorer. Tu sais, bon, il y a le fameux « on a perdu à cause de l'argent et des votes d'immigrés ».
J'en ai une pour toi. Vas-y. Qui est très similaire. Mais c'est vieux, là. C'est ouais. Du vieux stock. Quand j'ai entendu Maïté Blanchette-Vézina, la seule députée conservatrice à l'Assemblée nationale, déclarer, coudonc, tu sais, on va-tu interdire aussi les pamplemousses parce que c'est dangereux avec certains médicaments, ça m'a rappelé cette grande citation d'un ancien maire de Québec, Jean-Paul Lallier.
OK, qu'est-ce qu'avait dit notre ami Jean-Paul?
À un moment donné, il y a eu ce débat sur l'interdiction des pitbulls.
Oui!
OK, puis ça, ça a commencé il y a longtemps, puis il a fallu qu'il y ait pas mal de monde, excusez, qui se fasse arracher la face par des pitbulls.
Ah oui, puis...
Pour que ça bouge, là.
En passant, moi, j'ai eu un jeune au Parc Saint-Roch à l'époque, t'es défiguré complètement par un pitbull. Le jeune avait développé des comportements de violence extrême.
Oh mon Dieu, mais c'est... Mais en tout cas, bref, on en a entendu, là, des histoires d'horreur. Puis évidemment... qu'il y a d'autres sortes de chiens avec qui ça peut arriver, etc. Bon, il y avait tout un débat là-dessus. Et Jean-Paul Lallier avait dit, vous savez, là, on ne peut pas réduire tout risque à zéro. Tu sais, des perruches, là, ça peut piquer les yeux. Est-ce qu'on va interdire les perruches?
Oh mon Dieu, un pitbull avec une perruche.
Je me rappelle pas j'avais quel âge. Je devais avoir 10-11 ans quand j'avais entendu ça. Puis je me rappelle d'avoir trouvé ça niaiseux,
c'est
solide. Là.
Tu t'étais dit, non, ben niaiseux, le maire.
Donc, ça ressemble à l'histoire du pamplemousse.
Vraiment. Mais, vous savez, les amis, dans la vie, des fois, quand on est un enfant à bas âge, on vit beaucoup de difficultés.
C'est dur, dur être bébé.
Wow!
Hein? Un bon vieux classique? Jordi? Dans les années 80?
Début 90.
Ouais, hein? Dur d'être un bébé. C'est bon, hein? Je suis certain que nos auditeurs sont en train de danser dans leur voiture, à la maison. Mais là, pauvre petit Jordi, c'est dur d'être un bébé, mais il y en a qui l'impliquaient à la lettre en fin de semaine. Au mic du boulevard Lormière, avez-vous ça passé? Le conjoint de Mélissa Bédard, le gérant est allé jusqu'à lui dire « Ben, vous savez quoi? Revenez pas, vous faites trop de bruit avec vos enfants. » On est rendu dans ce monde d'intolérance-là. Ouais.
Mais moi, j'avais juste vu les excuses du mec. J'ai pas vu la situation comme telle. Donc, c'était ça la raison? Les enfants étaient trop bruyants, venaient plus ici?
C'est en ça? Plein ça, c'est en plein ça. Vous avez dérangé les clients. Puis là, maintenant, on s'entend, c'est un jeune d'un an là, qui est là, puis qui fait des bruits d'enfant d'un an, là, puis qui essaye de commencer à parler. Là. C'est ça.
C'est la même affaire pour moi aussi, là, Antonine. J'ai vu les excuses du Mike en premier pour comprendre finalement que Mélissa Bédard, quand elle a fait sa sortie sur les réseaux sociaux, n'a jamais mentionné le restaurant. Elle a juste dit « c'est un restaurant type familial, sur l'Ormière ». Je pense que c'est un truc du genre. Puis après ça, c'est Mike. Mais en fait, de ce que je comprends, c'est même les franchisés qui ont décidé de sortir en disant « on a eu l'information, on a été informé en fait de ce qui s'est passé ». Puis on tient à s'excuser. C'est sûr qu'un restaurant familial qui dit à une famille « revenez plus », c'est assez ordinaire quand même.
J'ai justement le post de Mélissa Bédard. Elle mentionne, bon, elle ne mentionne jamais le restaurant. Elle dit « à la fin du repas, après avoir payé la facture et laissé un pourboire, le pauvre serveur mal à l'aise lui a transmis un message du gérant. La prochaine fois, si c'est encore comme ça, il pourrait lui demander de quitter. » Et là, à ce moment-là, bien, ce que Mélissa Bédard expliquait, c'est que son enfant commence à essayer de parler. Fait que, ça. Puis là, sa sœur essayait de le faire parler. Puis les enfants riaient. Là. On est dans un restaurant le vendredi soir. Là, on peut-tu avoir encore du fun?
Puis c'est vrai que c'est un restaurant familial. Là.
Ben oui.
Moi, si je vais au Mike's, Je m'attends pas à ce qu'il y ait un petit jazz, puis des lumières tamisées, puis que personne ne me dérange pas un speakeasy, là.
Ben non, c'est ça. Puis tu sais, j'ai travaillé, je sais pas si vous avez déjà travaillé en restauration, mais tu sais, j'ai travaillé quelques années en restauration, dont dans des restos familiaux, entre autres. Puis souvent, j'avais plus tendance à avertir les gens qui arrivaient avec une attitude comme celle que tu viens de décrire. Tu sais, la table à côté, c'est parce qu'ils font bien du bruit puis ils dérangent.
Mais
t'sais,
c'est ça.
C'est parce que votre table d'hôte avec votre conjointe en ce moment, vous n'êtes peut-être pas en train de la manger dans le bon restaurant pour l'ambiance que vous cherchiez. Vous avez peut-être mal magasiné votre affaire. Ou venez plus tard, tu sais. Venez au service de 20h ou 20h30, là, il va y avoir moins de famille.
Exactement.
Mais tu peux pas t'attendre à rentrer dans un Normandin ou un Mike's puis que ça soit excessivement silencieux. Puis tu peux pas non plus être gérant ou gérante d'un restaurant familial puis que les enfants de gosses, là.
Ouais. Et hey, puis moi, je trouve ça vraiment cheap en passant que le gérant fasse passer le message
par le serveur.
Par le serveur et assume-toi.
Ben, c'est
là,
ce qu'elle disait, le pauvre petit serveur. Vous en pensez quoi, 418-971-101? Parce que présentement, on reçoit quand même beaucoup de textos, mais je te dirais qu'il y a des gens qui disent, dont Mathieu, que quatre jeunes filles, « Hey, il faut quand même que tu sois capable de gérer tes enfants. »
OK, ça, c'est vrai, mais... Les enfants, ils apprennent.
Ouais.
Donc, c'est en les amenant au restaurant puis en leur disant ça, c'est correct, ça, c'est pas correct, qu'ils vont finir par apprendre. Donc, un peu de tolérance. Puis, tu nous posais la question, Nathan, si on a déjà travaillé en restauration. Moi, je travaillais longtemps. Mes parents avaient des restaurants, là, donc j'ai travaillé très, très longtemps en restauration. J'en ai croisé des familles que, quand ils partaient, je me disais, il était temps qu'ils partent parce que il n'y avait aucune discipline.
Oui.
Tu sais, des enfants
qui
lancent des objets, qui laissent des crayons sur le sol. En passant, quand tu te promènes avec une trolley d'assiettes puis qu'il y a des crayons de bois sur le sol, c'est dangereux. Tu sais. Des enfants qui courent à travers les serveurs, qui ont des plats chauds, etc. C'est sûr. Mais le bruit... En tout cas, moi, je suis désolée, là, mais je pense que comme société, il faut apprendre à tolérer un peu de dérangement.
Tes parents ont déjà eu des restaurants?
Oui.
On dirait que ça vient de m'allumer sur... Ça serait tellement un beau concept de restaurant de, justement, viens avec ta famille dans notre établissement, apprends, puis évolue, puis au fur et à mesure que t'évolues, ben... je sais pas, ça te donne des rabais ou tu as des deux pour un ou les desserts sont inclus pour les enfants.
Il y a des restos qui ont des plages horaires spécifiques aussi. Tu sais, je voyais dans les Saint-Hubert, ils ont fait des plages horaires pour les familles d'enfants autistes. Pour qui, des fois, c'est plus compliqué, que les enfants peuvent faire des crises, qui ont besoin de trucs en particulier. Pourquoi pas? Aussi, c'est pas pour les exclure de venir dans les périodes normales, mais ça permet,
des
espaces.
Ben oui, justement, parce que tu sais, c'est ça, on pense à un paquet de trucs, Jeff, dans ces situations-là, on prend moins de réservations, donc ça se peut que ta banquette à côté va rester libre, justement, pour pas que ça soit bondé, la musique va être moins forte, ça se peut que la lumière, les néons,
on
soient pas dans le tapis non plus,
exactement.
On va t'amuser un peu. On va s'assurer que le climat va être plus adéquat.
Les serveurs aussi vont être adéquats, serveurs, serveuses, à répondre à cette clientèle, donc on va les former spécialement. J'adore le concept.
Puis les parents qui sortent de là avec leur enfant pour la première fois, puis on a réussi à aller manger au restaurant parce qu'on leur a offert un cadre, un milieu qui permet de le faire. Mm-hmm. C'est extraordinaire. Ce qui me gosse le plus, c'est qu'on a de moins en moins de tolérance avec les enfants puis les familles. Puis qu'est-ce qui se passe quand vous rentrez dans un restaurant? Vous allez voir des parents en train de discuter puis des enfants qui vont être sur les téléphones ou les tablettes.
Oui, exactement.
Fait qu'on les occupe avec des téléphones, des tablettes, parce que je serais curieux de savoir, dans les 5-10 dernières années, combien Saint-Hubert, Normandin et autres restaurants de ce genre a économisé en crayons de cire.
C'est clair.
Parce que ça marche plus, les petits cahiers de dessin. Puis les... Moi, en tout cas, mes enfants, ça fonctionnait plus dans les dernières années. Là. Ils font le labyrinthe, puis après 3-4 minutes, ils lâchent ça. Puis... Alors que nous, quand on était jeunes, c'est ça qu'on faisait. T'sais, on s'amusait. Puis quand
il y
avait plus
rien... Un peu dérangeant. Moi, j'ai des souvenirs de mélanger le sel et le poivre dans les poivrières salières.
Ah, ou de faire des mélanges dans le verre d'eau avec toutes
des montagnes de crémettes.
Oui, ça. Mais ça, c'est correct. T'sais, pourquoi on a perdu ça? T'sais, parce qu'on veut être dans un monde aseptisé où il n'y a plus de bruit, où les enfants déjà à 5 ans...
Il y en a moins d'enfants. On en fait moins. Donc là, on a un, puis là, on lui demande d'être comme un bibelot puis de ne pas déranger personne.
Puis d'être comme un adulte.
Exact.
Parce qu'on sort juste avec un enfant, avec un couple qui n'a peut-être pas d'enfant ou juste un enfant. On demande rapidement aux jeunes de devenir des enfants. Continuez à interagir au 418-971-102. Franchement, c'est vraiment mitigé. Des gens qui disent « Hey, si t'es pas capable d'entendre le bruit des enfants, reste chez vous. » À d'autres qui disent « Ouais, faut savoir gérer nos enfants. » À quelqu'un qui nous dit « J'ai déjà travaillé chez Mike's il y a longtemps, puis si mon gérant m'avait fait quoi de genre, j'aurais démissionné sur le champ. »
Bravo!
Donc, bravo. Exactement. Tu parlais des tablettes, des téléphones, Nate. Ça m'amène à l'autre sujet, je voulais parler avec vous. Les fameux médias sociaux pour nos enfants.
Mm-hmm.
On l'interdit-tu? comme on est en train de le faire pour les boissons énergisantes, c'est-à-dire avant l'âge de 14 ou 16 ans, là, qui est mentionné. Il y avait un excellent dossier dans les journaux de Québécois cette fin de semaine là-dessus. Ici à l'émission, d'ailleurs, on va recevoir une des spécialistes, Andréanne Gagné, aux alentours de 13h10, professeure au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage à l'Université Laval. Elle a pris 153 études qui se sont faites dans le monde sur les médias sociaux de 2000 à 2024. Elle a rentré ça dans une matrice puis a sorti des conclusions. C'était écœurant. Sur 24 ans. Et ce qui ressort comme constat, entre autres, c'est que chez les jeunes filles de 10 à 14 ans, les médias sociaux viennent créer énormément de dépression, énormément de pression. Puis également que 17,23% des Canadiens se sentent souvent seuls, des jeunes 15 à 24 ans. Donc, c'est pour ça qu'ils ont tendance à aller beaucoup sur les médias sociaux. Vous le gérez comment, vous autres, les médias sociaux avec vos enfants? Moi, honnêtement, les gars sont rendus à 16 et 18. Je l'ai toujours géré avec le fait que lorsqu'ils sont arrivés au secondaire, ils ont eu le droit à leur téléphone, ils ont eu le droit à leurs médias sociaux, mais que papa pouvait checker n'importe quand. Puis qu'ils ne pouvaient pas chioler après ça parce que c'était papa qui payait le téléphone. Fait que sinon, je t'enlève le téléphone. Vous autres, vous le gérez comment?
Moi, il me reste encore 2 ans, là, je pense, de... Comment je dirais ça?
De délai avant de commencer à gérer ça.
Oui, en plein ça. Parce que tu sais, le plus vieux a 10 ans, le plus jeune a 7. On est vraiment chanceux parce qu'on est une gang de parents à l'école des enfants où on est excessivement proche, on se parle beaucoup, on se voit beaucoup. On est, tu sais, depuis que le plus vieux, c'est ça, en maternelle 5 ans, on est devenus amis. Là, les parents, on se fait des 5 à 7 ensemble, puis tout ça. Fait qu'on peut aborder la discussion souvent par rapport, déjà en partant juste au téléphone intelligent. Puis on est pas mal tous d'accord qu'avant le secondaire, il n'y aura pas de téléphone avec forfait dans le décor. Là.
Exactement.
Parce qu'il y a quand même des amis de mon fils à l'extérieur de l'école qui ont déjà leur téléphone, mais il n'y a pas de... C'est ça, il n'y a pas de forfait, il n'y a pas de connexion. Mm-hmm. C'est des téléphones pour jouer à des jeux. Pis...
C'est exactement comme ça que Val le joue avec ses enfants également.
C'est ça. Ben, tu sais, regarder YouTube, ce genre d'affaires-là.
C'est ça.
Mais déjà, je trouve que YouTube, c'est tellement une gestion.
C'est l'enfer.
C'est tellement une gestion.
Oui.
Puis tu sais, on en parlait à micro fermé la semaine passée, Antonin, ensemble, oui. Roblox.
Oui.
Ça aussi, c'est une autre gestion.
Tu
juste
dis, toi...
cette patente-là. Fait que tu sais, ça me fait capoter. Mais je pense que l'avantage... Ben en même temps, je dis ça. Non, faut pas que je m'assoie là-dessus. Je pense qu'un des avantages que j'ai, parce que tu sais, dernièrement, je parlais avec mon plus vieux, c'est ça, 10 ans, puis j'ai demandé, tu sais, à l'école... commences-tu dans une gang d'amis à avoir des amoureux, des amoureuses ensemble? Puis des... puis il m'a juste dit, ah... Il dit, ça va tellement bien, là. Il dit, quand ça va commencer, ça va tout devenir compliqué.
Ça va... Il n'y a pas tort!
Puis là, j'étais comme, t'as tellement raison. T'sais, fait que, t'sais, si vous êtes capable d'étirer ça le plus longtemps, fait que je suis vraiment loin encore de ça, mais honnêtement, c'est un truc qui m'angoisse un peu comme parent parce que les autres niaiseries, j'en ai fait pas mal t'sais, quand j'étais jeune, des niaiseries. Fait que je pense que je vais être capable de gérer les autres niaiseries, mais ça, il n'y avait pas ça.
C'est terrain inconnu un peu.
Tout à fait, c'est
ça. Puis t'entends sûrement les autres parents qui disent à quel point c'est compliqué, puis je veux pas augmenter ton anxiété. Moi, j'en ai un qui vient d'arriver à l'âge adulte, là, et qu'on est passé à travers un paquet de choses. Puis j'en ai un plus jeune qui commence, là, les téléphones, YouTube, etc., il y a 8 ans et demi. Nous, on avait, c'est ça, le concept du téléphone, pas de forfait, mais ça crée d'autres problèmes. C'est qu'ils courent après le Wi-Fi. Donc là, des fois, ça peut même les empêcher de sortir de la maison. C'est que ça a l'air fou de même. Là.
Et puis, la première question quand même quelque part, c'est quoi le code Wi-Fi?
Oui, ça en est impoli.
C'est la première question.
Impoli avec le monde, tu sais. Puis moi, ça a été un regret de laisser YouTube rentrer chez nous. Parce que je me disais, au début, il écoutait des trucs un peu cute, il apprenait des choses, sciences, et alors, assez rapidement, on tombe dans les shorts. Tu sais, les shorts, c'est comme TikTok. Là, tu swipes par en haut, puis ça dure 15 secondes, 30 secondes. Puis il y a un autre animateur de radio à Québec, François Jacques. Je m'excuse si je déforme son nom. François, j'oublie si j'ai le bon nom de famille. Mais bref, il était sur TikTok l'autre fois, puis il parlait de ça, de la gestion avec les enfants, et il a utilisé une expression que je trouve que c'est exactement ça. Il dit, c'est comme des grosses cuillerées de sucre blanc. Le contenu que nos enfants écoutent là-dessus, c'est une cuillerée de sucre blanc, une cuillerée de sucre blanc, une cuillerée de sucre blanc. Et les YouTubeurs français, là, et aussi à un moment donné, à l'école, on s'est rendu compte, éducatrice et prof nous disaient, votre fils tient certains propos vulgaires. Puis là, j'étais là, mon Dieu, vulgaire. Puis là, ils sont comme, je sais pas s'ils entendent ça à la maison. Puis là, je suis comme, ben voyons donc, ben non. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était des vulgarités très françaises. Là.
Ah,
c'était les YouTubeurs français. Et c'est pas de la belle qualité, là.
Ben non, non. Puis c'est épouvantable, même dans le langage, là, tu sais, de mon plus jeune a 7 ans, puis qui dit, il appelle son frère « frère ».
Ouais.
Tu sais, « hey, frère ».
Mais il doit t'appeler le daron aussi.
Daron.
Oh. Ah oui, moi, daron, mon plus vieux m'appelle le daron. Hey, daron, comment
je
ça va?
Je me suis tabassé le genou.
Oui, c'est ouais. ça. Tabassé, explosé le genou. Ouais.
Pour coacher des gars au
ça parle de même, hein?
C'est fou. C'est fou, les expressions.
Ça me tape sur le chou, je dois vous dire.
Pendant l'année de hockey, faut que je me remette constamment à jour sur les expressions parce que
ils arrivent
mais partent aussi vite. Le fameux 6-7, là.
Ah, le 6-7, ah, c'est hot aussi. Ah, oui. Ben, ça a été comme le quoi poubelle.
Ça a
été un coup de vent,
oui,
ça aussi.
C'est vrai.
Là,
wesh!
Wesh. Ah, wesh. Ah ouais, quelle expression est un coup de vent 418-971-102. On a un auditeur ou une auditrice qui nous écrit « Hey, j'ai 3 enfants, j'ai jamais payé de cellulaire à mes enfants. » J'aurais toujours dit « Si vous voulez un cellulaire, vous allez vous le payer. » Donc, j'imagine quand les jeunes ont commencé à travailler. C'est un excellent point. C'est pour ça que, justement, je lançais la discussion à savoir comment vous gérez ça. Moi, pour de vrai, ça n'a pas été si pire avec mes boys. Tu sais, dans le sens qu'ils savaient que papa pouvait surveiller. Je me suis rendu compte rapidement qu'il était à peu près juste sur Snapchat puis sur TikTok. Puis Snapchat pour parler justement à leurs amis ou voir. Parce que ce que je me rends compte, c'est que dans leur grande communauté Snapchat, « Hey, je suis au centre Vidéotron ce soir. » Tling, me prends un selfie. « Hey, checké, je suis au centre Vidéotron. » Le monde dit « Ah, wow, tu me diras c'est quoi le pointage des remparts. » Puis tu sais, ça fait un job. Mais il faut dire que moi, j'ai deux garçons. J'ai la chance d'avoir deux garçons hyper actifs. Dans le sens, ça joue au football, ça joue
c'est
au hockey.
Ils ont d'autres choses. Ça pas là-dessus des heures par jour. Là.
Ça travaille. Là, il y a coach, deux équipes de flag football, une équipe de football. Fait que les gars sont tellement... T'sais, Edouard, il va finir l'école aujourd'hui. Là, il fait beau. Là. Ben, ils vont jouer dehors au flag football pendant 2 heures de temps.
Ouais, ça, c'est encourageant comme parent. Alors, de voir que tes enfants ont des activités. Là,
fait que oui, des fois, je me dis, ouais, une soirée que tu es à la maison, il me semble que tu passes trop de temps sur ton téléphone. Mais le fait qu'ils bougent à l'extérieur, tu sais, m'a jamais créé...
Ils ont un bon équilibre.
Ouais, exactement. M'a jamais créé cette grosse problématique-là. Du côté de Val, ses enfants, ben vois-tu... Oli, avec un masque là, qui s'est fait donner à Noël, là, fait ses propres vidéos YouTube. Il y a plein d'interactions. Fait que ça, je trouve ça génial. T'sais, ça crée justement des contacts avec le monde.
Il a quel âge?
Il a 14.
Ouais, c'est ça. Moi, mon fils, 8 ans, il veut faire des vidéos YouTube.
Ouais.
Puis là, puis il essaie de me faire croire que tous ses amis le font. Là, c'est toujours ça. Puis là, tu te rends compte que c'est pas vrai, pas en tout. Moi, le fait que mes enfants aient des identités numériques jeunes, ça, c'est le bout que... T'sais, je mets pas de photos de mes enfants sur mes médias sociaux publics et tout ça. Puis mon plus vieux, il était tout d'accord avec ça. Puis lui, il est plutôt discret. Quand je mets une photo de lui, il est gêné, puis il se peut plus. Mon plus jeune, là, ça, il veut avoir une vie numérique. Là, puis il dit, mettons que je Google mon nom, est-ce que je vais me trouver? Puis je suis comme, hey, pourquoi c'est une préoccupation?
Ouais, puis je suis bien, honnêtement, je lève mon chapeau à Val parce que sur YouTube, elle fait des recettes avec Oli.
Oh, c'est bien cute!
Que c'est comme une façon d'utiliser les réseaux sociaux qui devient un moment familial. Puis en même temps, Oli apprend à cuisiner. Ben, fait que tu sais, je l'ai vraiment trouvé bonne d'être capable de...
Ça fait changement de Minecraft là, pour les jeunes.
Puis d'être capable de twister le désir qu'Oli avait d'être sur les médias sociaux en quelque chose de positif puis de rassembleur.
Ben oui, c'est ça, parce qu'il n'y a pas que du mauvais non plus là-dedans. Non. Puis c'est un peu comme l'intelligence artificielle aussi, au final. Ça nous fait peur, puis je pense que c'est normal parce que ça évolue excessivement vite, mais on est aussi bien d'essayer de comprendre puis d'apprendre comment fonctionne la bébite plutôt que de se fermer complètement aussi. Tu sais, si le kid veut utiliser YouTube, aussi bien l'accompagner puis le faire de cette façon-là que de l'interdire. Parce que, tu sais, vous le savez comme moi, on a été enfants nous autres aussi.
Ben oui.
Tout ce qui est interdit devient pas mal plus intéressant. Fait que si on le fait pas devant les parents, ben on va le faire quand les parents ont le dos tourné. Puis là, ben à ce moment-là, est-ce qu'on va tomber justement dans des mauvaises vidéos puis des mauvais liens, puis ça va nous amener vers de mauvaises utilisations des réseaux sociaux. Mm-hmm. Tu sais, moi aussi, j'ai deux garçons, puis ce que tu disais tantôt, ça me parle beaucoup, Jeff, parce que j'ai l'impression que à l'époque à laquelle on vit, puis là, peut-être que je généralise, mais avoir une fille, faut que tu sois encore plus alerte que quand tu as un garçon. Quand tu as un garçon, faut que tu sois excessivement alerte. Je dis pas le contraire. Faut que tu sois alerte, mais faut que tu t'assures que lui, il fait pas de conneries, qu'il fera pas le niaiseux, puis faut que tu l'éduques vraiment comme il faut à comment se comporte un garçon et un homme dans la vie. Mais je pense que, tu sais, puis même les études que tu mentionnais tantôt, malheureusement, le démontre. Les réseaux sociaux ont un impact sur la confiance qui est majeure chez les jeunes filles parce que justement, on met excessivement de pression à être tout le temps dans la performance, à être excessivement parfaite, à être belle, à être, tu sais... Puis là, j'amalgame des affaires, là, mais tu sais, juste la présence physique, là, là, tu parlais d'avoir une présence numérique, mais la présence physique sur les réseaux sociaux, puis sur les Instagram, puis être belle. Puis là, ça veut dire qu'on va vouloir être le plus mince possible. Puis là, ben, on est capable de lire dans d'autres médias aujourd'hui en que effet. Là, maintenant, le
Zampic... Puis là, on va prendre Zampic, quoi, on va en parler tantôt.
Oui, il arrive, puis là, tu peux le commander en ligne. Fait que là, ça, faut que tu les watches, tes kids, là, pour être sûr qu'ils ne se commandent pas ça.
À mon époque, moi, c'était les magazines. C'est juste que les magazines, c'était pas 24 heures sur 24 dans mes mains non plus. Ouais, là, c'est très intrusif
maintenant.
C'était pas
instantané.
C'est instantané, puis il y a l'algorithme. Moi, là, je vous montrerai sur Instagram ce qu'on me pousse. C'est toutes des affaires de chirurgie plastique. C'est toujours à propos du physique. C'est regarder cette star, son visage s'est-il transformé? Est-ce qu'elle a eu recours à la chirurgie? C'est ça qu'on nous
puis
pousse.
Pourquoi? Parce que tu cherchais une chirurgie?
Ben non.
Je sais.
Imagine-tu? Ouais. Je cherche pas ça, puis c'est ça qu'on me pousse. Donc, j'imagine que pour les jeunes filles, c'est la même chose. Mais je veux juste mettre une nuance à ce que tu disais, Nathan, parce que, tu sais, oui, on a l'impression que les filles sont plus vulnérables, puis il y a sûrement des données qui le démontrent, mais les gars aussi peuvent être des victimes de certaines choses sur les médias sociaux.
C'est sûr.
Beaucoup d'enrôlements dans des groupes un peu violents. On a vu, par exemple, là, la semaine passée, on parlait de la manifestation avec les pancartes pour un Québec blanc. Puis on en a appris un peu davantage sur comment, avec des prétextes de sport, de bien-être, de gym, ben, il y a du recrutement. On a vu aussi que sur Snapchat, il y avait des prédateurs qui étaient là sur Roblox aussi, puis qui vont aussi s'en prendre à des jeunes garçons. Donc, moi, je dirais oui. De toute façon, on le sait qu'il faut être hyper vigilant.
Pas le choix.
Mais il faut aussi être conscient que nos garçons, moi, qu'il y a deux gars, puis on a tous des gars aussi.
Oui.
Il faut être aussi conscient qu'ils peuvent être victimes aussi. Il ne faut pas juste les éduquer à ne pas être des prédateurs. Il faut aussi leur apprendre à se protéger.
Ben moi, dans un spot check que j'avais déjà fait avec un de mes deux gars, en même temps, j'avais dit « Oh, pense pas que c'est une vraie fille qui est en train de jaser avec toi. » Il a fait ses recherches, puis il a dit « Ouais, t'as raison, pète. » Puis là, il s'était confondu en excuses. Mais j'avais dit « T'as pas t'excuser. »
C'est des discussions qu'il faut qu'on ait
avec
normal. Eux.
C'est normal. T'es dans l'apprentissage. Merci, vous avez été énormément à réagir. François qui dit « Donner accès à YouTube à des kids, c'est comme leur donner de la drogue. » Parce qu'ils deviennent bien tiltés. Et il y a un autre auditeur qui nous mentionne « Hey, il va falloir surveiller ça aussi parce qu'il y a une montée des sports qui se joue avec des consoles et ça devient de plus en plus populaire. On fait même des demandes que ça devienne des sports olympiques.
Oui, c'est vrai. Fait,
comment qu'on va gérer le tout? C'est un excellent point.
En Europe, déjà, il y a beaucoup de recrutement. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais les équipes de sport, de foot professionnels ont leurs équipes professionnelles de e-sport qui appellent aussi. Fait que les meilleurs gamers sont recrutés par les plus grands clubs de foot parce que si tu joues en ligne et que tu interprètes notre équipe, ben, on préfère que tu sois un joueur
c'est
officiel.
C'est pour leur brand.
C'est pour le brand du club de football. Fait qu'il y a
déjà des
joueurs de consoles numériques de foot qui sont considérés comme des joueurs professionnels avec des gros contrats, puis ils ont des commanditaires, tu sais, des Gatorade, des Monsters de ce monde, puis tout ça. Fait que moi, ça, c'est pour la première fois que j'en entends parler parce que mon plus vieux m'est déjà arrivé avec ça en me disant qu'il voulait être joueur professionnel de jeux vidéo.
Okay.
Puis que c'est une carrière maintenant. Ça a commencé beaucoup avec Twitch il y a quelques années, justement. C'était ça le but de la plateforme. Mm-hmm. Ça, c'est un truc qui me fascinait, là, regarder quelqu'un jouer à des jeux vidéo. Au début, je trouvais ça quand même particulier pour finalement comprendre que bon, tu développes des trucs et des astuces aussi par rapport à ça. Mais ça a fini par devenir ça aussi un métier un peu comme influenceur, influenceuse. Puis là, ben le jeune commence à jouer bien normalement chez eux. Puis là, la semaine d'après, il joue, mais il est rendu avec une canette de Monster sur le bureau. Puis là, la semaine d'après, il est rendu avec un fauteuil de gamer. Puis là, tu vois la marque. Puis là, tu vois qu'au fur et à mesure, il y a de plus en plus
de commanditaires.
Fait que il y a des jeunes qui voient ça comme étant un métier potentiel.
T'sais. Ça, je suis très d'accord avec toi. Trois petites manchettes, Nate, avant qu'on passe au caucus avec Antonine Iaccarini.
Oui, tout à fait. Évidemment, ce qui retient l'attention aujourd'hui, ben c'est Louise Arbour, l'ancienne juge de la Cour suprême du Canada, qui est officiellement devenu gouverneur général du Canada, succédant à Mary Simon lors d'une cérémonie au Sénat à Ottawa. Elle a prêté les trois serments requis avant de prendre place sur le trône. La cérémonie a été marquée par une salve de 21 coups de canon et une présentation de la chanteuse Sarah Dufour, ancienne haute-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU et procureure en chef à La Haye. Louise Arbour devient la représentante officielle de la couronne britannique au Canada, la 30e, en fait, dans l'histoire. Le chanteur français Patrick Bruel a été arrêté puis placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour violence sexuelle visant actuellement 13 présumées victimes. Les autorités françaises enquêtent notamment sur des allégations d'agression sexuelle et de viol et de tentative de viol qui auraient été commis entre 1997 et 2012 en France et en Belgique. L'artiste de 67 ans nie toutes les accusations. Ses avocats affirment qu'il collabore pleinement avec les enquêteurs et qu'il compte démontrer son innocence. Dans la foulée de l'affaire, plusieurs spectacles ont déjà été annulés, dont ses trois représentants prévue du côté de Montréal. Et si vous me permettez, c'est ça, c'est sorti il y a quelques minutes à peine. C'est ça, mise à jour autour de 11h30. Il y aurait deux nouvelles plaintes pour viol qui auraient été déposées contre M. Bruel les 27 mai et 3 juin dernier auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Donc, ça continue, là. C'est un effet domino, là. Ça ne fait que...
Il est temps qu'on l'enferme, là.
Dans les dernières semaines, là, c'est pas chic. Puis là, c'est ça. Il y a des spectacles qui ont déjà été annulés. Et là, lui-même prend la décision, finalement, d'annuler ses propres spectacles. Et on en parlait il y a quelques minutes, les génériques d'Ozempic qui sont déjà facilement accessibles en ligne au Canada, à peine un mois après leur approbation par Santé Canada. C'est une enquête des Coop de l'information qui a démontré qu'il est possible d'obtenir une prescription et une livraison à domicile après avoir simplement rempli un questionnaire en ligne sans consultation en personne avec un professionnel de la santé. Des experts en endocrinologie, entre autres, en pharmacie et en nutrition, qui se disent évidemment préoccupés par cette facilité d'accès.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Antonin Iaccarini dans le caucus. Tellement content que Radio-Canada me fasse une émission spéciale sur la gouvernance générale.
Écoute, Jeff, j'allais dire, on tombe-tu en émission spéciale?
Non, mais quand j'ai vu ça, attends, j'ai dit correct. C'est notre radiodiffuseur d'État. Donc, mais y a-t-il quoi de plus plate qu'une cérémonie de la gouverneure générale?
Écoute, c'est peut-être dans les obligations de Radio-Canada, je sais pas, mais nous, on fera pas ça aujourd'hui, Jeff. On parle d'autre chose.
Au moins, on a eu une artiste québécoise qui a chanté, on l'écoute un peu.
Ça s'est passé hier dans la nuit du 12 au 13. En sortant de son pick-up, a eu comme un malaise. Près de chez elle, au métro du collège, on l'a retrouvée morte dans un banc de neige. On n'aura jamais su de quel pays.
Vous l'avez reconnu, c'est Sarah Dufour qui a interprété la reine des Cowboys fringants. Elle avait demandé aux Cowboys fringants la permission avant. Ce qu'on comprend, c'est que c'est Louise Arbour, la nouvelle gouverneure générale, la nouvelle reine, qui aime bien cette chanson. Mais bon, assez parlé de la gouverneure générale
Excusez. C'est un drôle de choix de chanson.
Oui.
Ben, en tout cas, j'écoutais les paroles dans l'extrait. Moi, je connais rien là-dedans. Là. Tu sais, je suis toujours la dernière au courant de tout ce qui se passe au niveau culturel. Mais il y a des drôles de paroles pour aller avec la nomination du gouverneur général, non?
Le texte de cette chanson-là, c'est ça, raconte l'histoire donc de cette femme qui était appelée la reine dans les rues de Montréal parce qu'elle aidait les pauvres, les itinérants, puis tout ça. Mais c'est sûr que, bon, l'histoire se termine mal. Puis ça m'étonne quand même que les Cowboys aient donné leur approbation
à ça
pour que la chanson soit interprétée pour la cérémonie de la gouverneure générale. Il me semble que c'est pas dans les...
Ça peut surprendre.
Tout est bizarre là-dedans. Je trouve que tout est bizarre. C'est le fun, comme tu dis, d'avoir une artiste québécoise qui est là, mais je trouve quand même que tout est bizarre. J'aurais aimé ça être à la table de brainstorm pour être là au moment où est-ce qu'on fait...
C'est ça. C'est les Cowboys interprétés par Sarah.
On a tout ce qu'il faut, là.
Écoute, il y a un des Cowboys qui est maintenant un scientifique en chef du Québec.
C'est vrai.
Alors que nous, on pensait que les Cowboys emmerdaient tous les bouffons qui nous gouvernent. Finalement, ils sont nommés dans des postes importants du gouvernement. On fait des blagues, on les aime pareil.
Ils sont assagis depuis, malheureusement, que Carl est parti. C'est ça que tu es en train de me dire?
Bon, je n'ai aucun reproche à faire aux Cowboys fringants. J'ai pas envie d'être cancellé aujourd'hui.
Anto, tu m'as envoyé une liste pratiquement interminable de projets de loi qui
faudrait
réussir à rentrer cette semaine. Ça va être impossible, ça?
Écoute, il reste 5 jours de travaux parlementaires, même pas 4, parce qu'aujourd'hui, il ne se passe pas grand-chose à l'Assemblée nationale. La première ministre fait des annonces en région, à Lac-Mégantic, si je ne m'abuse.
Il y en a 17.
T'es à compter?
Ouais, 17 en 4 jours. Ça veut dire plus de 4 par jour. Mais c'est parce que d'habitude, quand on en fait un, on est content.
Ouais, par contre, ils sont rendus, les projets de loi, dans différents stades d'avancement. Et dans la dernière semaine, pendant la session intensive à l'Assemblée nationale, il y a quand même une adoption souvent qui est rapide. Et il y a certains projets de loi de là-dedans qui ont été déposés récemment, qui sont des plus petits projets de loi. Je ne vais pas tout nommer les projets de loi, mais je veux quand même qu'on se remémore certaines choses qui sont en cours. Projet de loi numéro 1, la Constitution.
Ouais, mais là, ça passera pas, ça, là.
On s'entend.
Hey, j'ai écouté tantôt l'assassinage Pascal Paradis, Simon-Jolin Barrette. Il n'y a personne. Il n'y a pas un groupe d'opposition qui va dire « c'est beau ». Ben, il y a juste les conservateurs, mais c'est parce que les conservateurs, autres, font toujours différent des autres.
Oui.
Là, ils disent « go pour la Constitution ». Quand c'est le temps de parler de boissons énergisantes, attends une minute.
Je vais vous donner un exemple.
Donne-nous un exemple, Maïté.
Jean consomme des médicaments qui interagissent. Il y a une interaction avec le pamplemousse.
Hein?
Ça peut causer des décès, là. Ça peut interagir avec des médicaments. Est-ce qu'on va interdire le pamplemousse?
Ouais, c'est vrai, ça. Tu vas une bonne comparaison.
Exact. En tout cas, bref. C'est excellent. Mais, t'as, mais je pense que...
C'est le brainstorm de la toune des cow-boys, elle.
c'est fort possible. Mais je trouve, Jeff, t'as mis le doigt sur quelque chose. Ils font toujours le contraire.
Ah oui, ouais. Ils font
c'est
toujours
tout.
Le contraire.
C'est qu'est-ce que tout le monde va dire, on va dire le contraire. Okay.
Puis là, je fais juste une petite parenthèse, mais là, on a reçu un communiqué, ça vient de rentrer il y a à peu près 2 minutes, de Danny Lizotte, qui est l'attaché de presse d'Éric Duhaime, où on dit « Les conservateurs déposent un mémoire et réclament une approche plus complète pour protéger les jeunes. » OK, on va s'entendre. Mercredi et jeudi passé, vous n'étiez pas pour protéger les jeunes, vous étiez pour la liberté. Mon monster, mon choix. Exact. Comme mon char, mon choix. Là. Mm. Fait que là, essayez pas de détourner l'attention. Là. Vous avez échappé le ballon à 100%.
Hey.
Puis c'est ça que vous avez fait. Et en passant, vous avez perdu énormément d'électeurs dans la région de la capitale nationale parce que le nombre de gens qui nous ont textés pour nous dire « Fini, j'allais voter conservateur, je ne vote plus conservateur. »
C'était une grosse erreur, évidemment. Sauf que là, ils ont réussi à aller chercher sur les boissons énergisantes un petit gain. Là. Ils ont trouvé ce qu'on appelle en bon français un « face saver », c'est-à-dire que le gouvernement a accepté qu'il y ait des consultations. Fait que là, les conservateurs disent « Voyez, on va mieux faire les choses grâce à nous. » Mais je pense que l'erreur du pamplemousse, puis d'être sorti aussi fort avant d'avoir parlé aux parents.
Ben, c'est ça.
Ben oui.
Tu sais, parce qu'on l'a senti que le ton de Maïté Blanchette s'est adouci après avoir parlé aux parents du jeune Zachary Miron. Alors, pourquoi être sorti fort de même la veille, en après-midi? En tout cas, c'est un peu dur à comprendre.
C'est ça qui est ironique aussi, c'est que t'sais, ça ressemblait à de l'impro, ce qu'elle a fait, tout ça. Puis la Ligue collégiale d'improvisation ici à Québec s'appelle la Ligue Pamplemousse.
Non!
Oui, on dirait qu'il n'y a rien qui existe pour rien. La Ligue d'improvisation collégiale Montréal-Québec, c'est la Ligue
Nous
Pamplemousse.
Nous sachons, là, c'est un grand complot. Ah, ça.
Mais présentement, on reçoit des excellents textos pour mentionner que le pamplemousse est dangereux. Puis continuer au 418-971-1021. On nous parle d'Éric Lapointe qui chante l'Odé comme un pamplemousse.
Cute!
Et au lieu d'orange mécanique, c'est pamplemousse électrique.
Ah, pourquoi pas?
Donc, continuez à 418-971-1021.
Donc, Constitution, boissons énergisantes, on en a parlé.
Ouais.
Il reste quand même pas mal de gros projets de loi qui semblent être une priorité pour la CAQ. Je pense évidemment il y a la loi Gabi Renault, on en a parlé abondamment, qui vise à permettre à des femmes d'avoir de l'information sur leur nouveau conjoint, savoir s'ils ont des antécédents criminels de violence conjugale. Il y a le projet de loi sur la carte électorale. Je vous en reparle dans un instant parce que c'est important. C'est un autre projet de loi qui aurait eu besoin d'une unanimité et qui ne l'obtient pas, je vous en reparle. Loi 101 dans la formation professionnelle. Il y a un projet de loi pour encadrer la revente de billets. Ça a été déposé. Mm-hmm. Est-ce que ça va être adopté? Le projet de loi, celui-là, un matin, quand je faisais la liste, écoute, j'avais complètement oublié ça, mais c'était une grosse affaire l'automne dernier. Le projet de loi qu'on appelle Q5.
Okay.
Donc, est-ce que vous vous rappelez de C5? C'était le projet de loi fédéral pour l'accélération des grands projets d'intérêt national.
Ah, ben là, on voulait
faire
la même chose, c'est
oui.
Vrai!
Quand
François voulait copier Marc.
Quand François Legault essayait de remonter dans les sondages et a fait son remaniement, il a fait un nouveau discours d'ouverture dans lequel il disait « Nous aussi, au Québec, on veut que tout aille plus vite puis on veut simplifier les processus. » Et c'est Éric Girard, ministre des Finances, qui s'est retrouvé avec ce projet de loi-là. Ben ça n'a jamais été adopté, finalement. Fait que c'était en comme effet. Un peu tombé dans l'oubli. Il y a le projet de loi sur le logement qui, la semaine passée, on nous a annoncé qu'on laissait tomber. Vous vous rappelez de celui-là?
Alors qu'on est encore en crise du logement, là, puis on est encore à des gens qui sont victimes de rénoviction.
Absolument.
Et qui partent de loyer à 800-900$ pour être obligés d'aller à 1600-1700$, puis joindront plus deux bouts qui vont se retrouver dans les banques alimentaires.
Absolument. Il y a le projet de loi 23 sur le P38, là, de pouvoir hospitaliser
ça,
des gens.
Ça, faudrait que ça passe, honnêtement. Là, on fait juste regarder là, les différentes problématiques qu'il y a, notamment santé mentale et en toxicomanie dans Saint-Roch.
Je trouve que le PQ a fait un bon coup la semaine passée. Ils sont sortis pour donner 5 priorités. Donc, 5 projets de loi qui, pour le PQ, ça va être ceux sur lesquels ils vont collaborer puis ils vont pousser pour que ce soit
beaucoup
adopté.
Beaucoup plus constructif que le pamplemousse.
Oh, c'est beaucoup plus
Donc,
constructif.
On apprécie. C'était quoi les 5 priorités?
Ben justement, celui de la carte électorale, Gabi Renault, Le projet de loi sur le vol d'identité, c'est un projet de loi qui a été déposé sur, par le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette. Celui sur les boissons énergisantes. Et là, celui-là, j'avoue que je ne l'avais pas vu passer. Je suis ça attentivement. Ouais. Pour instaurer une journée des personnes immunosupprimées. C'est le projet de loi 599. Okay. Est-ce que vous aviez entendu parler de ça?
Non, pas. En tout cas, je ne suis pas dans mes priorités pour le moment.
Quand un projet de loi a trois chiffres, c'est des projets de loi qui sont déposés par des députés de l'opposition.
Okay.
Spoiler alert, c'est rare c'est adopté, des projets de loi déposés par l'opposition. Ouais, ça arrive clair. Une fois par lune, à peu près, une fois par éclipse solaire. C'est assez rare. Mais le PQ, je trouvais qu'il y avait une bonne approche. Quand on demande à la CAQ, c'est quoi les vraies priorités, puis ceux, les projets de loi qu'il faut qu'ils passent absolument d'ici vendredi, la ligne officielle, c'est le plus possible.
Donc, ouais.
Je suis pas certaine. Je trouve que ça fait en sorte que on monte les attentes et que quand on va regarder qu'est-ce qui a vraiment été adopté vendredi, j'ai l'impression que ça pourrait mettre davantage le focus sur ce qui est mort au feuilleton finalement, parce qu'après ça, on part en campagne électorale et ce sera l'automne prochain, là, à l'ouverture de la session parlementaire, qu'on pourra redéposer des projets de loi, mais ils tiennent leur ligne officielle. Puis le meilleur exemple, je trouve, c'est celui sur la Constitution, parce que Christine Fréchette l'a redéposé, sachant très bien qu'on n'avait pas l'appui des oppositions sur ce projet de loi-là, sauf du Parti conservateur, comme tu disais tantôt.
Oui.
Donc, quand j'ai entendu Simon-Jolin Barrette la semaine passée dire « Là, les oppositions font de l'obstruction », je me suis dit « Arrêtez de perdre du temps avec ça. Là. Mettez l'énergie sur d'autres projets de loi. Là, ça n'arrivera pas. »
Il y a tellement de choses là, importantes.
On ne peut pas trop voter non plus de projets de loi de cette façon-là, dans le sens où est-ce que, tu sais, après ça, il faut les appliquer, il faut les mettre en place. Tu sais, le projet de loi, tout n'est pas mis en place ou on vérifie pas, que tout va être fonctionnel avant de voter le projet de loi. On le vote, puis après ça, on essaie de le mettre en place. Fait que c'est bien beau pour bien paraître pour les prochaines élections, mais à risque de se tirer une balle dans le pied, bien plus s'il n'est pas capable après ça de répondre à ces différents projets de loi-là au courant des prochaines années.
Il y a tout un processus avant les projets de loi, avant le dépôt des projets de loi qu'on voit pas. T'sais, notamment, on parlait des boissons énergisantes. Il y a eu des consultations avant. T'sais, la ministre de la Santé, elle a fait son travail.
Ça remonte à 2023, d'ailleurs.
Absolument. Donc, après ça, il y a le processus législatif. Mais une fois que le projet de loi est adopté, il y a effectivement encore une phase de déploiement. Puis, il y a ce qu'on appelle, dans notre jargon, le réglementaire. Tout ce qui est autour du projet de loi, mais qui est réglementaire, qui passe pas, qui n'a pas besoin d'être voté à l'Assemblée nationale, mais le diable est dans les détails. On s'entend que le gouvernement continue quand même de gouverner pendant tout l'été. Donc, même si les projets de loi sont adoptés, ils doivent être adoptés d'ici vendredi, les ministres sectoriels ont tout l'été pour régler toutes sortes de choses, continuer de gouverner. Puis, je ne sais pas si vous saviez, mais même si les élections sont déclenchées, les ministres demeurent ministres jusqu'à la nomination du conseil des ministres suivant. Les députés ne sont plus députés. C'est bizarre un peu comme situation. Mais les ministres demeurent ministres. Donc, même si les projets de loi, le deadline est quand même assez proche, bien, ils ont encore un peu de temps pour déployer
pour en
certaines
place.
Choses.
D'accord. Carte électorale, Youri Chassin qui dit « Non, on a une institution qui existe, ça va être elle qui va décider, donc c'est pas vrai qu'on va passer à 137 circonscriptions, on va rester à 135, puis bien, coudonc, la Gaspésie sera un immense territoire. »
125.
C'est vrai, c'est ça. Et quand je l'ai dit, là, je me disais, je suis pas le bon chiffre.
Il n'y a pas de problème. Juste un petit retour en arrière sur la carte électorale, c'est que c'est une commission indépendante qui est responsable de réviser la carte électorale sporadiquement pour voir si c'est toujours logique au niveau du poids démographique. Donc, on le sait, on a des grandes circonscriptions au Québec qui ne sont pas très habitées. Puis après ça, si on va dans le coin de l'île de Montréal, vous allez voir plein de petites circonscriptions très, très habitées. Et l'année passée, la commission a conclu qu'on allait enlever une circonscription en Gaspésie et une circonscription à l'est de Montréal pour en ajouter dans la couronne nord de Montréal où il y a un boom démographique. Et ça fait beaucoup scandale parce que, bien, premièrement, ça ferait une très, très grosse circonscription en Gaspésie. C'est pas l'idéal pour un député de représenter des territoires qui sont aussi grands, là. Puis évidemment, il y en a des plus grandes. Là, si on regarde la Violette, Ongava, c'est gigantesque. Mais il y a eu une mobilisation en Gaspésie. Puis l'est de Montréal, bien, c'est comme une région qui est toujours un peu négligée. Donc, il y a aussi une mobilisation pour protéger cette circonscription.
Ouais, HMR est là.
Exactement. Donc, ça prenait l'unanimité des groupes parlementaires pour bloquer cette révision de la carte électorale. Parce qu'au Québec, c'est pas les députés qui découpent la carte. faut que ce soit indépendant. Pourquoi?
Ben oui.
Parce qu'on veut pas avoir un phénomène de gerrymandering comme aux États-Unis,
exactement,
où on veut faire des circonscriptions pour nous avantager notre parti politique. Et là, Youri Chassin, député indépendant, ancien caquiste, a décidé de boquer. Puis, honnêtement, je l'admire un peu parce que, imaginez, lui, il se rend à l'Assemblée nationale à toutes les semaines, puis il y a un paquet de députés puis de partis qui sont fâchés après. Là.
Mm-hmm. Puis il continue. Puis
il lâche pas le morceau. Et je dois dire que même si je trouve ça pas d'allure que la Gaspésie perde une circonscription, et même chose pour l'Est de Montréal, j'aime pas comment ça se passe. C'est-à-dire que j'aurais eu l'impression qu'on aurait pu couper la poire en deux. Les élus peuvent adopter un projet de loi qui mettrait des exigences supplémentaires à prendre en considération quand la commission découpe la carte électorale. On aurait pu dire, tu sais, avant d'enlever une circonscription dans des régions moins habitées ou, tu sais, mettre des balises, mais qu'ils ne soient pas arbitraires selon le moment. C'est de dire, ah,
en effet,
ça ne fait pas mon affaire, ça fait mon affaire. Il faut éviter le plus possible l'arbitraire avec les élus.
D'avoir l'impression de jouer dans la carte là, à la Donald Trump. Là.
C'est ça. Puis Youri Chassin, lui, c'est ça le danger qu'il voit. C'est, il dit, si on commence ça, ça va s'arrêter où? Là?
Mm-hmm.
On a donné le mandat à une commission indépendante, puis là, quand ça ne fait pas notre affaire, on bloque. Ça ne marche pas.
Ceci dit, est-ce que ça serait la fin du monde que la Gaspésie soit aussi grande pour 4 ans, le temps qu'on mette ces balises-là?
C'est pas la fin du monde.
C'est ça.
Mais c'est sûr que pour le poids des régions, puis il y a toujours un peu une frustration si les régions plus éloignées ont toujours l'impression d'être un peu négligées.
En effet.
Donc, évidemment, d'abord, un député là, qui va représenter une très, très grande circonscription en Gaspésie. Les Gaspésiens se disent, nous, on veut 2 députés, on veut pas 1 député.
On termine le caucus, qui est du lundi au jeudi, à l'émission On en jase, sur Boulevard 101, avec André Fortin, qui va nous expliquer, bien, pourquoi ça dérange pas que les francophones aient étudié en anglais au cégep? Écoute bien ça.
Regardons la situation dans laquelle on se trouve en ce moment.
L'anglicisation avec Mario Dumont.
Le gouvernement actuel a échoué à offrir des cours de francisation aux immigrants. Les délais d'attente pour obtenir des cours de francisation en ce moment au Québec, là, ils sont complètement démesurés. Alors, il y a des gens qui veulent apprendre la langue, qui veulent apprendre le français pour pouvoir s'épanouir économiquement, pour pouvoir participer pleinement à la société, et ils sont incapables de le faire dans des délais raisonnables.
C'est super logique. Anto Crémon, on n'est pas capable de franciser les immigrants. Fait que là, pourquoi qu'on demanderait à nos francophones de demeurer francophones?
Ça n'a aucun lien, hein? Les deux affaires n'ont aucun lien.
C'est ça.
Mais non.
C'est comme, on peut faire les deux, là.
Oui.
Mais ça démontre, je trouve, toute la confusion en ce moment qui règne concernant la langue française au Parti libéral du Québec. On sait que il y avait eu tout le bug entourant la clause dérogatoire parce que la CAQ a joué un petit tour à Charles Milliard en déposant un projet de loi justement sur la clause dérogatoire qui nous protège, en fait, qui fait en sorte qu'on n'a pas à respecter la Charte
là,
des droits du Canada.
Charles Milliard a appris à danser le cha-cha, c'est-à-dire sortir dans les médias et dire « Je vais protéger la langue française » et après est entré dans son caucus. Oh, on est revenu pour dire, ouais, c'est pas vraiment ça que je voulais dire.
Ouais, puis lui, il dit que c'est jamais arrivé. Hein. Ça, je l'entends en parler régulièrement, puis c'est comme si c'était une invention là, de nous, là, les médias.
Ouais.
Là.
Là,
c'est
avant,
jamais arrivé.
C'est ça, puis avant le conseil général du PLQ, et j'imite Charles Milliard, je vais arriver avec mes politiques pour la protection du français. Mais on ressort de là avec, au cégep, tout le monde étudiera dans la langue qu'ils veulent.
Écoute, je sais pas comment il va faire, parce que...
Il manque un gouvernail.
Ben, à force de vouloir faire plaisir à tout le monde, à un moment donné, tu fais plaisir à personne.
Exactement.
Puis être clair, ça a un coût politique.
Ouais.
Tu sais, quand tu dis non, moi je tranche, c'est là qu'on va, ben il y a des gens qui vont pas aimer ce que tu fais.
Ouais.
Donc des fois, les gens politiques ont ce réflexe de dire je veux protéger la langue française, là, c'est important là, mais je veux être plus inclusif. OK, mais concrètement, ça veut dire quoi? Donc on nous dit du côté du Parti libéral qu'on va déposer un plan de promotion et de protection de la langue française d'ici l'été. Donc ça, c'est 21 juin,
ben
parce que je sache. Donc ça s'en vient bientôt.
Mais
qu'on aura vraiment une approche plus inclusive. Donc, on ne veut plus là, exclure les anglophones. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Mais non,
honnêtement.
Moi non clair, ça non plus.
Je
ça
sais
veut,
pas.
Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que Winners va pouvoir garder sa pancarte Winners sans être obligé d'écrire magasin de mode en dessous? Ou...
Ouais.
Il dit qu'il va avoir une approche moins coercitive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la coercition? Ça veut dire que si tu fais pas ce qu'on te demande, il y a une conséquence. Okay? Par exemple, on a obligé les commerces, les entreprises à se conformer davantage depuis la nouvelle loi 96, notamment sur l'affichage.
C'est ça, ouais.
Là, ce que je comprends, c'est que les gens ne seront pas obligés de faire des affaires. Parce qu'une approche non coercitive, c'est le français, c'est important.
Fait qu'on va leur demander.
Parlez-le!
Faites-le, ouais, s'il vous plaît. Et si vous le faites pas,
ça se passe à rien.
C'est
dans
pas
le
grave.
Fond, les libéraux avec la langue française ont la même approche que les conservateurs avec les boissons énergisantes. On va sensibiliser.
Oui, c'est ça.
Puis en sensibilisant, tout le monde va embarquer dans le train. Je vais dire à mon adolescent de 14 ans, bois pas ça. C'est dangereux. Puis quand il va être avec sa gang, puis qu'il va rentrer dans le dépanneur, puis il va avoir la belle grosse canette, il va dire. Oh, papa m'a dit de pas boire.
J'ai été sensibilisé.
Ouais. Alors, c'est la même chose. On va dire aux personnes immigrantes, on va dire aux francophones, on va dire aux anglophones, savez-vous quoi? Au Québec, on parle français. C'est notre langue officielle. Parlez français, tout le monde. Et là, comme par magie, tout le monde va se lancer vers la langue de Molière.
C'est Charles Milliard, en ce moment, ce qu'il fait, c'est j'ai l'impression qu'il met le français et l'anglais sur un pied d'égalité. Puis il y avait eu le petit mini-scandale des deux langues officielles, ouais, puis on avait rigolé avec ça, mais je trouve que c'est quand même un peu symptomatique. Oui. C'est comme s'il ne traitait pas le français comme s'il était en danger, comme s'il y avait un déclin. Bien, l'anglais n'est pas en danger. Ce n'est pas une langue qui est en danger, c'est dans ça, le monde, OK? Surtout au Canada. Donc, oui, il faut faire des mesures pour freiner le déclin du français. Je voyais le commissaire à la langue française, M. Dubreuil, la semaine passée, qui disait que le projet de loi 96 là, sur la langue française que les caquistes ont adopté et déployé, ce n'était pas suffisant pour freiner le déclin de la langue française. Ce que M. Milliard propose présentement, c'est d'aller moins loin que le projet de loi 96.
Fait qu'il va accélérer le déclin.
Ben c'est ça. Et là, M. Milliard, pour gagner, s'il veut être premier ministre l'automne prochain, c'est pas l'électorat anglophone et allophone. Il est déjà acquis.
Okay? 70 % votent pour eux.
Donc là, je l'écoutais parler, je me disais, on dirait qu'il essaie de renforcer le vote à Laval, dans le West Island, puis dans le Pontiac, en Outaouais. C'est pas là qu'il faut qu'il aille faire des gains, c'est en région. Je vois mal comment il va aller rallier plus de monde en région. Ouais. En disant, je vais faire moins que le projet de loi 96 sur la langue française.
Parce que c'est ça, même si, vu que l'anglais n'est pas en danger, même si on décidait de se positionner davantage pour le français du Parti libéral, tu penses que ça n'aurait pas d'impact sur les votes, justement, de la communauté anglophone
c'est
du Grand Québec, là?
Nos circonscriptions, la carte électorale puis notre système électoral fait en sorte que, tu sais, quand on regarde les sondages d'intention de vote, vous voyez que le PQ puis le PLQ ne sont pas très loin. Mais en siège, c'est loin.
Oui.
OK? Donc, pour que le Parti libéral rentre dans la zone payante de comté là, cet automne, il doit aller chercher du vote francophone. Même s'il va chercher plus de votes anglophones, là, les comtés à majorité allophone anglophone, là, ils sont déjà au Parti
libéral.
C'est
déjà fait. C'est déjà acquis.
Puis là, je dis pas que le Parti libéral doit se dénaturer. On le sait bien qu'il y a toujours eu une approche moins identitaire que la CAQ puis le PQ, c'est bien correct. Mais d'aller me dire qu'on va faire moins que la loi 96, je... honnêtement, bien hâte de voir ce que ça va donner dans l'électorat francophone.
Ben écoute, le Parti libéral du Québec est à 9 % dans l'électorat francophone au sortir de la dernière élection. Il s'était monté jusqu'à 23 %, mais là, la descente est recommencée, c'est à 18 %. Puis s'il continue comme ça, ben ma prédiction, c'est que ça va retomber à 12-13 % puis il n'y aura pas de comté en région.
On va voir son plan d'ici le 21 juin.
Exactement. Oh, j'ai assez hâte. Ça va être un fouillis de plein d'affaires qu'on ne comprendra pas.
Tu penses?
Ben, je suis pas mal convaincu.
Moi, je donne le bénéfice du doute.
Ah,
j'attends.
Ouais? Tu donnes le bénéfice. Ouais.
Moi, l'impression. Je suis Félix Clin d'œil en même temps.
Ben, c'est ça. Parce que l'impression que ça me donne, moi, personnellement, c'est que M. Milliard, comme tu disais tantôt, Jeff est arrivé en disant je serai le marionnettiste de ce parti.
Ah, exactement.
Pour qu'on comprenne finalement que c'est la marionnette d'un dernier jour.
Oui, c'est
puis
ça.
Que c'est quelqu'un d'autre qui tient les ficelles en arrière. Là.
Oui, exactement. Il y a pas mal de députés qui veulent encore une job. Antonine Niacarini, on se parle demain?
À demain.
À demain. Non?
Je suis pas sûr.
T'es pas sûr que t'es là demain?
On s'en parle.
Tu vas nous manquer.
Moi, je suis là demain.
T'es là demain,
Nathan. Tu me gardes-tu?
On est content que tu sois avec
nous. Tu me gardes-tu pour la prochaine heure aussi?
Ben oui, parce que tu vas faire des nouvelles.
Génial, ben je vais être là.
Tu vas faire des nouvelles, puis on va parler des armes dans les écoles. Hey, c'est en une du devoir.
Ouais.
600 armes qui ont été saisies depuis 2021 dans nos écoles.
Ça n'a aucun sens.
Hey, jusqu'à des couteaux de chasse. Là. Pourquoi nos enfants ont des armes dans nos écoles? Ça vous inquiète-tu? 418-971-102, on parle de ça. À Boulevard 101, on en jase après la pause.
On en jase.
Je préviens, on jase.
Oh oui! Et cette semaine, on jase avec Nathan Meilleur, qui est avec moi pour m'accompagner dans l'émission On en jase. Nathan, qui est le mari de ma cousine, imaginez donc. Donc, c'est une émission familiale.
Le conjoint.
Oui, le conjoint, ça répond pas que je dis mari, je vais te mettre dans marde.
Non.
418-971-101, vous le savez, pour nous joindre, c'est le numéro pour le faire. Vous avez été plusieurs à le faire. BLVD.fm, c'est notre web radio. Vous arrivez au travail bientôt. Clac, syntonisez-nous. Même principe, téléchargez l'application Boulevard 101, disponible sur App Store, Google Play Store. C'est la meilleure façon de nous écouter partout où vous êtes. Et également avec votre haut-parleur intelligent, vous êtes écouté BLVD 102.1 et on apparaît dans vos oreilles. Ah, que je fais toujours ça la fin de semaine pour écouter l'excellent Rock and Chill ou encore le boulevard du rock avec Dan Caron et Colosse. Hey, là, on parlait de ma cousine qui, avant de faire des news, ça me fait penser. Explique-moi donc ce qui arrive avec Alexandre Zverev, qui est le tennisman qui a remporté le tournoi Roland-Garros hier. Ouais. C'est son premier tournoi majeur qu'il a remporté en carrière. Bon, premièrement, il est atteint de diabète de type 1, puis on l'a bien vu se piquer dans la jambe.
Oui, tout à fait, c'est
ça. En pleine finale.
C'est ma copine, c'est ça, qui m'a partagé ça parce que malheureusement, là, j'étais à autre tâche familiale connexe hier, fait que j'ai manqué la finale de Roland Garros. Mais c'est ça, on peut voir qu'à un moment donné, il arrête pour s'injecter de l'insuline. Puis c'est assez surprenant quand même parce que c'est sûr que quand tu es diabétique de type 1, et que tu fais du sport de haut niveau, en général, ça fait diminuer énormément ton taux, donc de ta glycémie en général. Fait que là vient la question de, je serais curieux de savoir à quoi ressemble son menu avant un match.
Qu'est-ce qu'il mange? Ça veut dire qu'il est dans le piton totalement.
Si en plein match de tennis, il est obligé de s'arrêter pour se donner de l'insuline, donc pour diminuer son, ou à moins que ça soit un boost d'insuline, tu sais, est-ce que c'était le contraire? Peut-être parce que là, évidemment, tu sais, bon, ça prend toujours au minimum deux sources. Là, celle que j'ai pour l'instant, on croit que c'est de l'insuline, mais il faudrait quand même vérifier. Ça fait en sorte quand même que c'est franchement impressionnant de voir qu'un diabétique de type 1 est en mesure d'être un athlète de haut niveau à ce point-là. Puis il y en a beaucoup plus qu'on pense. Puis le diabète est une maladie qui, très personnellement, je trouve, est considérée comme facile à gérer.
Ouais.
Je le dirais comme ça. Parce qu'on a découvert l'insuline il y a de cela très, très, très longtemps maintenant parce que ça devient une solution, mais à une maladie qui ne disparaît pas, à une maladie qui est auto-immune, en fait, à une maladie qui ne se guérit pas. Le diabète de type 1, le type 2, oui, se résorbe et peut disparaître, mm-hmm. mais pas le type 1. Et c'est difficile de gérer sa glycémie dans différents moments de la vie, tout dépendamment, évidemment, de ce que vous avez mangé, comment votre corps va réagir personnellement. Fait que des sports de haut niveau comme ça, c'est difficile à gérer. Je trouve que c'est inspirant de voir qu'il y en a de plus en plus. Des athlètes comme ça, comme lui qui devient le plus vieux aussi à remporter un grand chelem en carrière. Parcours qui a été franchement impressionnant. Sauf que là, il y a quelques minutes, c'est
ben,
ça.
C'est ça que j'y allais, parce que là... C'est devenu le joueur préféré de ma cousine qui est à blonde. Je vois sur la publication, on le voit s'ingérer de l'insuline. Ouais. Elisabeth qui dit « Hey, wow! Quel challenge ça doit être pour lui. Merci d'être une inspiration pour tout le monde qui vit avec ce type de diabète. T'es un vrai guerrier. » Mais là, le guerrier a perdu des plumes.
Mais là, en fait, c'est que... puis je regardais, il y a un article dans le New York Times, en fait, leur volet The Athletic aussi, qui est paru il y a quelques années. Ça date du 7 mars 2005. Parce que on dit que pour la première fois depuis 21 ans, le vainqueur de Roland-Garros ne figure pas à la une du journal L'Équipe. La raison, Zverev est accusé de violence conjugale par deux ex-compagnes.
Là,
on peut lire qu'en 2005, la première victoire de l'Espagnol Rafael Nadal aussi à Roland-Garros avait été éclipsée par un grand rassemblement organisant soutien à la candidature de Paris aux Jeux olympiques de 2012. Et là, le joueur allemand a été visé par des accusations de deux ex-conjointes. Puis ce qu'on peut lire dans The Athletic, c'est que l'une d'elles, finalement, ça s'est réglé à l'amiable. Les accusations ont été abandonnées, finalement, parce qu'on aurait réglé à l'amiable, mais tout ça, c'est du nouveau là, pour moi. Mais tu vois, malgré les critiques de certaines associations et de plusieurs observateurs, les instances du tennis ont maintenu le principe de la présomption d'innocence et n'ont jamais suspendu le joueur. Roland Garros et l'ATP ont donc continué à l'accueillir dans leur compétition. Mm-hmm. Parce qu'évidemment, il y a... On présume ici, là. Il n'y a pas d'accusation encore
de portée. C'est un peu comme on voit là, dans d'autres sports majeurs. Claude André qui nous dit « Bill Gullickson, lanceur des Expos, record recrue 18 retro-bâtons dans un match, était diabétique. Bobby Clark aussi. Martin qui nous mentionne qui est diabétique de type 1. Il dit c'est probablement gardant, parlant du Vérev, une trop grande marge pour sa glycémie avant le match. Avec l'adrénaline qui a fait monter la glycémie, c'est possible qu'il avait besoin d'une dose en cours de match. Nathalie qui nous mentionne également que Max Domi, ancien du Canadien, joueur des Leafs de Toronto, est diabétique. Merci de continuer à nous texto 418-971-1021. Ça me fait penser, ça, net, là, c'est complètement différent parce que Zverev est au tennis, puis il n'y a pas de contact physique au tennis. Mais je remarque, va vraiment falloir commencer à étudier davantage les cerveaux de nos sportifs qui disparaissent, notamment, je pense, à Claude Lemieux, qui nous a quittés la semaine dernière. Parce que je vois de plus en plus de cas de violence conjugale, et notamment chez les joueurs de football. T'es pas plus tard que la semaine dernière aussi, Josh Jacobs, un des porteurs de ballon, étoile la NFL avec les Packers de Green Bay, parce qu'il n'y a pas encore d'accusation formelle, mais selon ce que sa conjointe a écrit sur les médias sociaux, il aurait sacré une bonne volée à sa conjointe. Puis on en voit de plus en plus. Puis je veux vraiment qu'on pousse la science parce que ça n'a pas de sens que le métier de ces gars-là, même s'ils gagnent des millions de dollars, les amène à vivre ces traumatismes crâniens-là puis à changer complètement leur personnalité.
Leur façon d'être, leur personnalité. Oui. Puis tu sais, là où je trouve que ton point est intéressant, c'est qu'on parle de commotion cérébrale beaucoup. On parle évidemment que ça a des impacts sur le cerveau, donc sur les comportements humains en général. Mais il y a certains sports où il n'y a pas de contact, puis on voit quand même ça arriver de plus en plus aussi. Puis c'est ce point-là que tu soulevais tantôt que je trouvais intéressant de « faudrait pas tomber dans le bateau » de mettre ça tout le temps sur le dos des commotions cérébrales.
En effet.
Faudrait pas que les commotions cérébrales aient le dos trop large, là. Mettons, je vais le dire comme ça, dans le sens où est-ce que ça arrive dans les sports de contact, on le voit au football, on le voit au hockey, OK, mais des athlètes de Formule 1, des athlètes de tennis, comme là, l'exemple qu'on vient de donner avec Zverev, est-ce qu'à ce moment-là, faudrait se questionner sur autre chose, explorer d'autres pistes. Est-ce que ça a rapport avec l'entraînement ou le surentraînement physique en général? Est-ce que ça a rapport avec différents suppléments, peut-être? Parce que, tu sais, on sait qu'au niveau du dopage, il y en a encore puis il y en aura toujours. Mais en général, le dopage, on est quand même assez vite sa gâchette. On est capable rapidement de passer différents tests puis de voir si les athlètes sont dopés ou pas.
Toutes les ligues de ce monde, à l'heure actuelle, sont très bien équipées pour ça.
Mais tu vois, n'importe quel cycliste qui fait le Tour de France est asthmatique.
Ah ouais, pourquoi?
Parce que ça leur permet de prendre des pompes. Ça leur permet de prendre du Ventolin, entre autres. Qu'est-ce que ça fait, le Ventolin?
Comprends.
Ça dilate les bronches. Qu'est-ce que ça fait,
donc,
si t'as les bronches dilatées?
Ça te donne une meilleure performance au niveau de ton cardiovasculaire.
C'est ça. Parce que
quand t'arrives dans les Pyrénées, envoie un petit coup de pompe.
T'as plus d'oxygène qui se diffuse dans le corps au grand complet. Fait que, mais la surutilisation de ce genre de méthode-là, puis on s'entend, là, je suis pas médecin, pas en tout, j'en ai aucune idée, là, tu sais, puis ils sont suivis par des équipes de professionnels, mais est-ce que ça, c'est une piste qu'il va falloir éventuellement observer de plus près, de se poser la question, est-ce que par rapport à l'entraînement en général, est-ce que l'utilisation de différents suppléments, autant avant, pendant, tu sais, les pré-workouts, les post-workouts, est-ce que ça, ça peut avoir des effets sur le cerveau? Je pense que oui, parce que tu sais, l'alimentation en général va avoir un effet pas juste sur l'aspect physique, mais sur l'aspect psychologique aussi. Tu sais.
Non,
mais
j'aime ce que tu nous racontes.
Faudrait pas que les commotions cérébrales aient le dos trop large.
Non, t'as raison, parce qu'il y a plein de façons également de se contrôler. Puis d'ailleurs, je le répète souvent pour les hommes ici dans la région de Québec, si des fois l'estime monte trop, là, on entend beaucoup parler de féminicide, on entend parler de plus en plus de cas de violence conjugale, il manque de place dans les maisons pour femmes battues, bien, il y a l'organisme, le GEPI, groupe d'entraide pour les personnes impulsives. Appelez-les, allez consulter leur site web, puis vous allez vivre des groupes de discussion avec des intervenants qualifiés, vous allez ressortir de là, puis au lieu que la fuse pète, bien, vous allez être en mesure de communiquer calmement et positivement. Prenez soin de vous pour prendre soin des autres si jamais vous vivez ce genre de moment-là. Nate, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Écoute, je vais y aller évidemment avec ce qui retient le plus l'attention aujourd'hui dans les médias, entre autres, du côté de Radio-Canada, chose certaine, là. C'est
la gouverneure générale!
Ben oui, tout à fait, Louise Arbour qui devient la 30e gouverneure générale, l'ancienne juge de la Cour suprême du Canada qui est officiellement devenue gouverneure générale aujourd'hui, succédant à Mary Simon. Stevens lors d'une cérémonie au Sénat à Ottawa. Elle a prêté donc les trois serments requis avant de prendre place sur le trône. La cérémonie qui a été marquée par une salve de 21 coups de canon et une prestation de la chanteuse Sarah Dufour, ancienne haute commissionnaire aux droits de l'homme de l'ONU et procureur en chef de la haie. Louise Arbour devient la représentante officielle de la couronne britannique au Canada. Sinon, il y a quelques minutes, on pouvait lire que la Ville de Québec va mettre sur pause l'élaboration de la nouvelle politique de stationnement.
Okay.
Aussi, c'est pour se concentrer sur le projet de tramway. Ça avait été lancé en 2024, ça, cette nouvelle politique-là. C'était une réflexion qui prévoyait notamment d'étudier une tarification des permis selon la taille des véhicules et une tarification variable selon la demande et de nouvelles règles pour le stationnement résidentiel. Une espèce de tarification dynamique. Ouais. Si on veut, tu sais, sur l'offre et la demande des parkings dans tel secteur, puis après ça, bien, sur la taille de ton véhicule.
Fait que dans le fond, un pick-up coûterait plus cher qu'une Mini Cooper.
Possiblement, c'est okay. Ça, en plein ça, ou qu'une moto ou qu'un scooter à ce moment-là. Tu sais, peut-être que ça coûterait moins. La ville qui précise toutefois que les plans de gestion du stationnement vont se poursuivre dans le secteur de Saint-Jean-Baptiste et du Vieux-Québec. C'est des travaux qui seront intégrés aux plans locaux de mobilité liés au futur tramway, qui incluront donc aussi des mesures touchant la circulation et le stationnement. Il y a Patrick Bruel, évidemment, qui fait beaucoup jaser aujourd'hui, mais il y a une nouvelle que j'ai lue tantôt, puis je voulais te la faire, celle-là, parce que je sais que ça nous parle beaucoup, les deux. La crise du logement.
Eh oui.
C'est le Journal de Québec qui a sorti ça ce matin. Je trouve ça intéressant. C'est les demandes de reprise de logement qui ont explosé au Québec au cours des 5 dernières années. C'est près de 14 000 propriétaires qui se sont adressés au TAL, donc au Tribunal administratif du logement, pour reprendre un logement destiné à eux-mêmes ou à un membre de leur famille, soit davantage que durant toute la décennie précédente. Mm-hmm. Puis on s'entend qu'on voit sous-jacent à ça, bien, t'es locataire depuis 10 ans, là, il y a une explosion des coûts des loyers, je vais reprendre le logement pour ma sœur et dans une couple de mois, ben finalement, ma sœur décide de pas prendre le loyer. Ah, ben, Colin.
Puis là, je l'ai rénové. Puis, Colin, toi, ben, tu payais là... 900$, puis là, je vais le mettre à 1600$.
Ben, c'est ça.
Gadons ça, toi, j'ai fait 700$ ben, de plus.
Fait que là, c'est ça. Il y a des groupes de défense des locataires qui affirment que plusieurs personnes quittent leur logement sans contester, puis que c'est très souvent difficile de prouver une reprise abusive. Selon eux, la crise du logement qui accentue évidemment l'inquiétude des locataires. De leur côté, les représentants des propriétaires soutiennent que les règlements actuels sont déjà très restrictifs, limitent considérablement leur droit de reprendre un logement pour des motifs légitimes. On entend vraiment les deux, puis tu sais, le but, c'est pas de prendre un bord ou de l'autre nécessairement
non,
avec cette nouvelle-là, parce que j'ai des amis qui sont propriétaires puis qui me disent souvent... Et Colin, qu'on peut pas faire ce qu'on veut.
Ben non.
C'est vraiment pas simple d'être propriétaire. Pis,
ah, évincer quelqu'un qui te cause du trouble à ton logement, c'est un paquet de troubles. Puis tu sais que ta propriété diminue de jour en jour parce qu'exemple, il va te scraper un mur aux trois jours.
Tu sais, c'est ça, là. C'est excessivement tough parce qu'il faut pas oublier que le propriétaire aussi. Il a vu l'inflation puis le coût de la vie. Là,
ben oui.
Encore là, je veux pas généraliser. Il y en a qui sont propriétaires de plusieurs portes, des centaines, voire des milliers de portes, puis ça peut-être pas autant d'impact pour eux.
Mais il y en a qui sont propriétaires de juste un 6-8 portes.
Ben
eux
oui.
Autres, ils se sont dit, hey, j'ai investi dans l'immobilier parce que ça va être ma retraite.
Tout à fait. Puis comme tu dis, ils voient des logements se faire décalifier par
des
locataires en ce moment, puis ils perdent ça. Mais de l'autre côté, c'est sûr qu'avec la crise du logement, c'est quand même inquiétant de lire ça ce matin, de voir qu'il y a de plus en plus de reprises. Puis tu sais, moi, c'est la première fois en 7 ans que je travaille à la radio puis que j'entends des pubs rouler sur nos deux antennes en ce moment concernant une aide qui est disponible pour trouver un logement. Je sais pas si t'as entendu cette pub.
Ben oui, je l'ai entendu.
Mais, le 1er juillet approche, vous savez pas où vous allez vivre le 1er juillet. Imagine l'inquiétude,
ben oui.
Jeff.
Ben,
c'est Olivier, pas où tu t'en vas.
C'est Olivier Primo qui mettait sur ses médias sociaux, sur la plateforme X. C'est 25 000 Québécois présentement qui sont à recherche d'un logement.
Hey, on est le 8 juin. Hey, le stress, ça n'a aucun sens. Petit, ton stock, tu vas le mettre où, puis t'es-tu obligé de le laisser dans le loyer. Puis finalement, quand tu vas trouver un nouveau loyer, tu vas être obligé de te rééquiper au complet. Il va être meublé, semi-meublé.
Non, c'est un stress épouvantable pour souvent des jeunes familles également.
Ben oui.
Puis ce qu'il faut comprendre aussi, on a parlé du côté du propriétaire, du fait qu'il y avait beaucoup de réglementations, mais du côté de la personne évincée, ben des fois, ça va être une personne aînée qui est habituée d'avoir ses services à proximité. Mm-hmm. Puis là, elle va changer complètement de quartier. Elle va devenir une personne démunie. C'est des familles défavorisées. défavorisés, qui sont à proximité d'une banque alimentaire, qui sont à proximité, exemple, des personnes immigrantes, de cours de francisation, etc., qui, là, vont se retrouver délocalisés aussi. Fait que ça, cet enjeu-là aussi pour ces personnes-là qui sont plus défavorisées de la société.
Bien, tu sais, tout à fait. Puis on en voit quand même beaucoup des chantiers, là. Si, tu sais, du côté de Québec, bon, mine de rien, on est chanceux parce que, tu sais, on se rappelle que du côté de Lévis, il y a quand même un moratoire en ce moment qui bloque tout type de construction. Puis c'est normal aussi, tu sais, il va falloir revoir le réseau d'égouts puis d'aqueducs. Avant, on n'a pas le choix.
En effet, on
est à côté au bouchon, là. Sauf que juste ce matin, je m'en venais au travail puis j'ai vu au moins 4 chantiers en m'en venant. Mais il y en a peu là-dedans qui sont du loyer accessible.
Exactement.
Il y a beaucoup de condos locatifs qui vont être à un prix plus élevé probablement que les hypothèques qu'on paye. Toi puis moi en ce moment, tu sais.
T'as-tu vu Virginie Dufault par rapport à ça du Parti libéral du Québec?
Non.
Qui lâche justement de la commission pour le projet de loi sur le logement, finalement, l'habitation, finalement, qu'on a laissé de côté. Bien, on y a posé la question, puis elle est dans l'opposition, mais ça a été la ministre qui l'a relancé. C'est quoi pour vous un logement abordable? 1 600 $ pour un 4,5. 418-971-1001, 1 600 $ pour un 4,5. C'est abordable? Moi, ça ne l'est pas, mais bon.
le principe de coop d'habitation, le principe de l'approche des Trudel.
Ouais.
Quand on construit des gros immeubles, des grosses bâtisses, d'avoir un certain pourcentage.
15% logement abordable, logement social.
D'avoir un logement abordable. T'sais, actuellement, je pense qu'on est dans une situation où il faut être... faut avoir des approches comme celle-là. À partir de là, c'est qu'on peut pas tout pelleter dans la cour du voisin. T'sais, si un loyer coûte moins cher quelque part, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre à quelque part qui va pallier à ce montant-là qui est perdu. Là, t'sais, je les redonne en exemple aussi, puis les Trudel ont possiblement les moyens de le faire actuellement et décident de le faire aussi. Mm-hmm. Mais on est dans une situation où on n'a pas le choix de faire ça parce que tu le disais tantôt, on a 25 000 personnes en ce moment qui vont quitter un loyer, un logement, puis s'en vont dans la rue, là.
Puis parmi ces 25 000-là, ben malheureusement, il y en a plein qui vont trouver des logements trop chers, mais qui vont dire « j'ai pas le choix, il faut que je mette un toit ». Pour ma famille. Il faut que je me mette un toit sur la tête. Donc, c'est ce qui va être difficile. Ouais. As-tu écouté le match samedi soir de hockey? On écoute la fin.
Également, Harlan veut revenir vers le filet. Doit le contourner. Il est dans le coin. La passe est derrière pour McNabb. La passe à droite. Le tir de loin. Ça va. Et le goal! Le goal de Mike sauve la mise et gagne en deuxième prolongation.
Il y a un tir qui allait à côté du but, qui a frappé Jordan Martinuk, qui est venu frapper Brandon Boozy, le gardien de but remplaçant les Hurricanes de Caroline, derrière la jambe, puis qui a rentré. C'est Shea Theodore qui a fait ça. Il y a tout eu dans ce match-là.
Ouais. Ouais.
Tour du chapeau de Mitch Marner en un peu plus de 6 minutes. C'est un record pour les séries éliminatoires. Ça s'est passé en deuxième période. C'était 4-0. Puis là, en 39 secondes, paf! Les Hurricanes en ont marqué 3. C'était jamais vu en finale de la Coupe Stanley, en troisième. C'est devenu 4-4 finalement avec un but de Zvezhnikov à la fin de la troisième période. Et là, les Golden Knights ont gagné en deuxième prolongation. Franchement, là, pour ceux qui ont dit le Canadien est éliminé, j'arrête d'écouter le hockey, là, vous manquez une méchante bonne série parce que c'est du Christy d'hockey qui joue. Là.
Mais là, je suis de ceux-là. Là.
Ouais.
Honnêtement.
Va falloir que tu raccroches.
Mais oui, mais c'est ça. Mais avec ce qui s'est passé samedi, j'aurais pas le choix. T'as-tu vu le mème passer de la fille qui vient d'aller s'acheter 2 bières?
Oui.
L'as-tu vu, ça?
Oui.
Ça m'a fait rire de rire. La pauvre fille, elle vient s'asseoir, est en deuxième période de prolongation. Elle fait comme, bon, clairement, c'est pas fini pour... ça s'enligne pas pour se finir rapidement, ce match-là. Elle vient de s'acheter probablement 2 bières à 20$ chaque. Puis au moment où est-ce qu'elle arrive à son banc, elle a même pas le temps de s'asseoir, puis finalement, le but est carré. Puis là, mais faut que tu cales 2 bières avant de sortir de l'aréna. Mais c'est du gros hockey qui se joue en ce moment.
Vraiment.
Clairement, puis je pense que ces deux équipes, ça enlève absolument rien aux Canadiens, puis on les voyait pas là de toute façon. Puis c'est une équipe qui est jeune, puis ils ont encore beaucoup
exactement.
À apprendre.
Hey, les Hurricanes de Caroline ont perdu 3 finales de conférence avant de se retrouver là.
Ben c'est ça, là. Mais tu sais, on fait face à une équipe avec les Hurricanes qui a énormément d'expérience série qui était due, puis ça donne du fichu de bon hockey.
Oh,
puis c'est pas mal plus le fun, ça, qu'un 4-0 où est-ce qu'il y a une équipe qui se fait passer à travers.
Ben, oui, tu sais, les derniers matchs canadiens où il y avait à peine 12 lancers au filet puis les Hurricanes en avaient 40. Là.
C'est ça.
C'est plus excitant, ça. Là. Mais Mitch Marner est en train de rire des Leafs de Toronto.
Hey, écoute, c'est...
Il est rendu à 22 points dans les séries.
Ça n'a aucun sens. La seule affaire qui fait en sorte que les Leafs peuvent peut-être rire de lui un peu,
c'est le kit des Golden Knights là, qui est épouvantablement laid. Là. Tout est laid là-dedans. Là. Oh, ça, c'était les gants blancs, puis le gilet à paillettes là, doré. Là.
Ouais. Puis le pire, c'est quand ils mettent le casque doré. Ils ne le mettent pas dans les séries. Là, ça ne met pas de bon sens. Là.
Mais à part de ça, on s'entend que Marner a gagné sur toute la ligue.
Exactement. Hey, Nate, je te fais un compliment de PO qui dit « Je veux rien enlever à ton show, Jeff, mais à chaque fois que Nathan va dans un show, j'apprends à l'adorer. Si ça continue, je vais virer week-end. Mais t'es obligé de t'engager, Nathan Meilleur.
Ben écoute, moi, ce show-là n'a pas d'impact sur l'autre case horaire.
C'est ça. Je vais être obligé de t'engager.
Tout se peut, là. Écoute,
merci, PO, qui mentionne. Good job, les boys. J'adore vos discussions. Ouais, puis moi et Nate, ben, on a pas mal les mêmes intérêts dans la vie. Hey, parlant d'intérêts, je suis certain que vous l'avez également en tant que parent. Il y a énormément de parents qui nous écoutent. C'est les médias sociaux. On en a parlé en entrée de jeu, moi, toi et Antonine. Là, on va avoir Andréanne Gagné, professeure au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage à l'Université Laval, qui va être avec nous après la courte pause. Dans le fond, avec Andréanne, ce qu'on va faire, c'est qu'elle a pris 153 études un peu partout dans le monde entre 2000 et 2024, puis elle des conclusions sur les médias sociaux chez nos jeunes. Ça cause quoi? Hey, on parle de dépression chez les jeunes filles.
Ça me fait capoter. Mais en même temps, c'est ça. Ça fait quoi les réseaux sociaux, là?
C'est ça.
10, 15, 20 ans. Fait que, on commence à avoir des chiffres.
Oui, on commence à avoir des données. Vrai, on commence à avoir du data.
Quelque chose de tangible.
Ça va être intéressant. Ouais. Il y avait un bon dossier dans le Journal de Québec, le Journal de Montréal. On lisait entre autres qu'il y a l'interdiction des cellulaires à l'école secondaire. C'est très positif. Et moi, je le vis chez mon kid Edouard. Là. Mm. Quand je jette ses 2 heures dehors à jouer avec ses chums après école, là, ben, l'interdiction du cellulaire à l'école aide beaucoup à créer ces bonnes habitudes-là.
J'aurais aimé ça qu'on fasse l'exercice avant-après.
Ouais.
Puis je pense pas qu'on l'ait fait. Puis j'y ai pensé trop tard. J'aurais aimé ça me promener dans les écoles avec un outil qui calcule les décibels, là, comme on voit dans les arénas en ce moment, là, pour aller dans les cafétérias sur l'heure du lunch avant. Oui. Puis après.
Et avant, là, il n'y a pas grand monde qui parlait. Là, c'est le party.
C'est sûr, tu sais. Il y a même des jeunes, ça a l'air, qui oubliaient carrément de dîner parce qu'ils étaient pognés sur leur téléphone. Là, les interactions, les tables de ping-pong, de baby-foot qui se remettent à être utilisées dans le... J'aurais aimé ça voir le ratio de décibels avant, après, voir...
L'interaction sociale, t'as tellement raison. Moi, là, Edouard vient de gagner. Je les félicite, les Lasers du Sentier. Ils ont gagné le cadet Division 3 en flag football en fin de semaine dans Puy.
Puis, c'est cool, ça.
Je revoyais ma gang de patros qui est en train de jouer. Je t'explique, ils ne font que s'écœurer. Ouais. Hey, on aurait dû l'attraper, celle-là. Hey, qu'est-ce que t'as fait là? Mais ils sont full chumés. Hey, gros catch, parfait. Hey, voyons, t'avais pas tes mains là-dessus. Puis ils finissent par gagner. Mais pourquoi? Ils ont gagné parce que quand j'ai regardé 4 équipes là, qui étaient en compétition pour la médaille d'or, là, c'était eux autres qui avaient le plus de fun.
Il y avait du fun.
Il y avait du fun. Il y avait juste du fun. Les autres, je les voyais des fois pris dans de la pression. Les autres, c'était comme « Oh, OK, on essaye ça. Ben, tu l'as raté. » Le fun les amenait à victoire.
Mais regarde, on parlait du CH il y a 2 minutes à peine. C'est ça. C'était ça, cette équipe-là, cette année. Là.
Ben,
on sentait que le fun était pogné dans le vestiaire. Les gars, il y avait le sourire fendu jusqu'aux oreilles à tout bout de champ.
L'enfer.
C'est supposé être ça.
Ben oui.
On joue au flag football.
Et voilà.
Jouer, c'est supposé être le fun.
C'est un jeu.
Ben oui.
On parle avec Andréanne Gagné, les médias sociaux, dans quelques instants. Boulevard 101. Émission d'Angers de ton lundi 8 juin. Jeff Fortin avec Nathan Meilleur pour la semaine. On a bien du plaisir à décortiquer l'actualité avec vous et à parler des enjeux qui vous touchent. On vient d'avoir une bonne conversation justement sur le logement. On sent que ça vous parle énormément. Pas nécessairement que les auditeurs de Boulevard présentement sont en recherche de logement, mais les coûts qui augmentent d'année en année sur le portefeuille des gens. À faire en sorte qu'on a moins d'argent, que c'est beaucoup plus difficile. À la météo, 27 degrés aujourd'hui, généralement ensoleillé. Tombe bien, mais on va jouer au golf avec mon plus vieux tantôt à 4 heures.
Eh, bon boy, ouais, t'es tombé sur la bonne.
Mais, hein, 27 degrés ensoleillé aussi pour demain, 29 degrés nuageux pour mercredi. Et à plus long terme, on parle de possibilité d'averse et 21 degrés pour jeudi. On en a parlé en début d'émission. Qu'est-ce que vous faites en tant que parent? Comment vous gérez les médias sociaux chez vos jeunes? C'est vraiment pas évident, ce combat-là. On est content que les écoles aient interdit le cellulaire dans les établissements parce que ça aide un peu au combat du temps d'écran puis ça ramène nos gens à l'activité physique. Et pour en parler avec nous, on a Andréanne Gagné, qui est une spécialiste à l'Université Laval, professeure au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage. Madame Gagné, merci de participer à l'émission d'Angers.
Oui, bonjour, M. Fortin.
Madame Gagné, je lisais l'article dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, sur l'étude, les 153 études que vous avez mis ensemble pour en sortir une matrice entre 2000 et 2024. Et ce que je constatais, sans surprise chez moi, c'est que c'est le groupe des filles de 10 à 14 ans pour lequel les médias sociaux sont les plus néfastes.
Oui, absolument. Juste pour préciser, une précision importante pour moi, cette étude-là a été menée en Australie. Donc, j'ai rapporté les résultats de l'étude, mais c'est pas moi qui a fait la méta-analyse dont il était question. Mais vous avez tout à fait raison. Ce que cette méta-analyse nous a permis de mettre en lumière, c'est que les réseaux sociaux sont le type de média le plus fortement lié à des répercussions indésirables. Puis parmi le groupe, c'est lié, là, chez tous les groupes d'individus là, de 0 à 25 ans, là, qui concernait cette étude-là, mais plus particulièrement les filles entre 10 et 14 ans qui sont particulièrement susceptibles de voir soit une augmentation des symptômes de dépression, soit des comportements problématiques dont l'automutilation. C'est aussi associé à la consommation de substances, puis à une perception aussi plus faible, ou à un rendement scolaire légèrement plus faible, particulièrement chez les jeunes filles de 10 à 14 ans, là, comme vous le mentionniez.
Ouais. On voyait aussi que selon Statistique Canada, c'est 17% des adultes de 15 à 24 ans, mais j'ai adultes, il y a des adolescents là-dedans, qui se sentent seuls. À quel point les médias sociaux contribuent à être seuls? T'sais, parce que souvent, quand je suis sur les médias sociaux, je ne crée pas de contact humain en tant que tel. Est-ce qu'il y a justement une corrélation à faire?
Ben oui, effectivement, il y a une observation à faire certainement là entre le terme réseaux sociaux et le fait que les réseaux sociaux peuvent avoir comme effet de nous isoler socialement. Et c'était peut-être pas ça l'intention au départ, mais au final là. Avec ce que c'est devenu au fil des années, parce que ça fait peut-être 20 ans là qu'on vit avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous amènent à être de plus en plus dans notre chambre d'écho. Par ça, je veux dire, on crée des groupes d'amis avec lesquels on partage certaines affinités. Donc, il y a moins d'ouverture là à la diversité par les réseaux sociaux que dans les contextes de vie réelle. Ça, c'est une chose. Puis d'autre part aussi, les réseaux sociaux nous amènent à consulter. Souvent, on va consulter les réseaux sociaux dans un environnement isolé, tout seul. On pense à nos ados, là, tout seul dans leur chambre. Fait que, en plus, quand on consulte les réseaux sociaux, souvent, on est dans un environnement là isolé. Fait que c'est les deux facteurs là qui augmentent l'isolement social là, par les réseaux sociaux.
Dans les différentes études qui ont été recensées dans tout ça, Mme Gagné, est-ce qu'on est en mesure d'établir ou de voir un pic quelconque, peut-être, avec la période pandémique? Est-ce que ça a eu un impact, ça? C'est chez les jeunes aussi qui étaient obligés de rester, donc, à la maison, qui étaient obligés de rester isolés et qui se sont, donc, à ce moment-là, créé une méthode de communication avec leurs amis qui passaient par le téléphone cellulaire puis les différentes applications sociales?
Oui, nous, en recherche, c'est sûr que la période pandémique, là, est particulière pour nous parce que ça a été une période où, justement, les technologies, le numérique a permis aux gens de rester en contact. Donc, il y a eu un effet qui est somme toute positif dans un contexte d'isolement social. Ça a aussi apporté une certaine résilience là au secteur de l'éducation. On a pu continuer l'éducation des jeunes. Fait qu'en temps pandémique, c'est sûr que les bénéfices versus les coûts, là, les effets indésirables qu'on observait, bien, il y avait des bénéfices notables parce qu'on était dans un contexte d'isolement social. Maintenant qu'il n'y a plus d'isolement social puis qu'on peut socialiser, on peut se déplacer dans des vrais endroits, avoir des activités parascolaires pour nos ados, mais à ce moment-là, le bénéfice de faire ces activités-là via le numérique, il n'y en a plus, il y en a beaucoup moins. D'où le changement, là, vous en avez parlé aussi. Là, l'année passée, d'interdire l'usage des appareils numériques personnels dans les écoles. Parce que là, on ne voyait plus le bénéfice, alors qu'on n'aurait pas pu interdire ça il y a 5 ans quand on était en plein contexte pandémique et tout le monde avait besoin de son outil numérique. Là. Donc, les contextes évoluent.
Mais il y a une habitude, c'est ça quand même, qui a possiblement été créée chez les jeunes de communiquer de cette façon-là. Puis comme vous dites, même s'il n'y a plus de bénéfice actuellement, on a quand même de nouvelles habitudes à mettre en place ou à enseigner ou à apprendre différemment. Il y a quand même quelque chose de cette période-là qui teinte peut-être encore les résultats qu'on a aujourd'hui.
Ah, c'est sûr que de manière anecdotique, là, plusieurs parents là, nous rapportent que le fait d'avoir, je vais utiliser l'expression que j'entends souvent des parents, c'est « Ah, j'ai perdu mon ado pendant la pandémie ». C'est sûr que quand il y a de... C'est une habitude de vie, hein, les écrans, comme la nourriture, comme l'activité physique, c'est une habitude de vie. Quand il y a une habitude qui est prise, c'est beaucoup plus difficile s'en défaire que de la construire. Là. Fait que c'est la même chose pour les écrans. Tu sais, quand la pâte à nain est sortie du tube, c'est difficile de la remettre dans le tube de dentifrice. Mm-hmm. C'est un peu le même phénomène qu'on voit. Quand l'habitude de vie est créée, c'est beaucoup très difficile de la défaire, d'où l'importance de la prévention, là, maintenant qu'on est en 2026, là, pour les plus jeunes générations. Là.
On parle beaucoup de prévention, mais il y a des pays qui ont commencé justement à interdire les médias sociaux, que ce soit pour les moins de 14 ans ou les moins de 16 ans. En terminant, Mme Gagné, vous pensez quoi justement de cette interdiction-là pour les plus jeunes?
Oui, ben moi je pense que c'est une bonne initiative. Puis de manière générale, là, dans le milieu, il y a un consensus à l'effet que ce serait une bonne idée. Il y a d'ailleurs un projet de loi ici à l'Assemblée nationale du Québec là qui a été déposé. C'est une loi qui vise à protéger les jeunes contre les effets néfastes des écrans en encadrant les médias sociaux, les jeux vidéo. Donc c'est un projet de loi là. Je sais que la séance parlementaire termine sous peu là, donc faut voir ce qui arrivera avec ce projet de loi à l'automne prochain.
Andréanne Gagné, professeure au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage de l'Université Laval. Merci beaucoup, Mme Gagné, de votre temps à l'émission On en jase et au plaisir de se reparler.
Au plaisir. Bon après-midi.
Merci, bon après-midi. Au revoir. Tu vois, les médias, le téléphone cellulaire, on l'interdit dans les écoles. Puis, tu sais, je m'en parallèle un peu là, ce qu'on est en train de jaser avec les boissons énergisantes depuis la semaine dernière.
Ouais.
Cellulaire, on l'interdit dans les écoles. Quand on a décidé de faire cette mesure-là, il y a plein de parents qui disaient « Mon Dieu, comment je vais faire pour rejoindre mon ado? »
Ouais.
Puis il y a plein d'ados qui disaient « Ben voyons donc, Grim, mon téléphone, j'ai le droit de l'utiliser quand je veux, tout le kit. » Puis moi, quand je parle à mon gars, puis aux amis, mes gars, ils disent tout « Hey, c'est-tu quoi? C'est une maudite bonne affaire.
Ah » ouais.
Je rappelais à socialiser.
Ah ouais.
Alors, rappelais à parler, là, c'est pas, ils disent pas ça dans leurs termes, là, mais ils disent « Ah, mais à la place, là, ils se redonnent une petite bine dans le corridor, puis ils s'écœurent dans la cafétéria, puis ils s'en vont jouer dehors sur l'heure du dîner au lieu d'être sur leur téléphone. » Fait que des fois, je suis pas pro-interdiction, mais je me dis dans des moments comme ça, charnières pour le développement de nos enfants, sais-tu quoi? Je trouve que ça a vraiment un bénéfice.
Ben, je peux pas être en désaccord avec toi, Jeff, t'sais, dans le sens où est-ce que Mme Gagné l'a dit, étant elle-même spécialiste, c'est des habitudes et ça crée une dépendance. Donc, on le fait avec l'alcool, on le fait avec la drogue, de l'interdire
exactement.
À nos jeunes qui ne sont pas majeurs. Les boissons énergisantes, c'est un point que j'amenais la semaine passée justement avec Max, puis je disais, ce qui me fait capoter, c'est que partout où je vais, n'importe quel dépanneur où j'arrête, il y a tout le temps un deal de 2 pour 5 piastres ou 2 pour 6 piastres, ces affaires-là. Puis moi, je vois des jeunes sortir du dep, pas avec un, mais deux monsters dans les mains.
Oui, parce qu'ils ont le deal, puis en même temps, ce deal-là est très bien positionné.
Tout le temps.
Avant, qu'est-ce que tu voyais quand tu rentrais dans le dépanneur? Un Gatorade, un Powerade.
Ouais.
Bon, des fois, une liqueur, mais bon, là, les premiers frigos sont réservés aux boissons énergisantes.
C'est tout le temps à hauteur des yeux, hein?
Tout le temps à hauteur des yeux,
c'est
la
ça, d'un
belle
ado,
canette dorée, là, tu sais, que tu rentres dans le dépanneur, tu dis, hein, tu sais, même moi qui n'ai pas un consommateur de boissons énergisantes, je rentre dans le dépanneur, je fais, hey, j'aime quasiment le goût d'en acheter une.
Ben, tu sais, c'était je me souviens, écoute, à l'époque, moi, mon père livrait pour une compagnie, puis il avait sorti des formats de boissons énergisantes, comme ça, un litre. OK, fait que c'était vraiment comme un litre, comme un Pepsi, un litre, là, avec un bouchon.
Litre.
Il rentrait dans les dépanneurs des fois à très très tôt le matin à 6h, 6h30, 7h. Les livraisons ont toujours été de bonne heure. Puis il me disait, je voyais des kids sortir avec ça. Puis là, ça le dévissait. Puis ça prenait des gorgées le matin. Il était 6h30, 7h. Puis tu le sais que le jeune va se clencher ça pendant la journée au complet. Fait que si on ne l'interdit pas, interdire quelque chose, ça ne veut pas dire que le jeune ne le fera pas ou qu'il n'en consommera pas. On s'entend, là, on se mettra
mais
pas la tête dans le sable.
Mais on vient réduire la possibilité.
T'sais, ça reste encore à ce jour une des meilleures entrevues que Justin Trudeau a jamais accordées. C'est celle à Tout le monde en parle il y a quelques années quand on avait essayé de le cuisiner sur pourquoi vous voulez donc bien légaliser le cannabis au Canada. Puis sa réponse, ça avait été, il y en a dans les rues de toute façon. Nos enfants vont mettre la main là-dessus de toute façon. Fait qu'est-ce qu'on n'est pas mieux justement de le baliser et
de
s'assurer
gérer,
que les produits qui sont consommés sont des produits de qualité qui ont été faits par des professionnels, que ça a poussé en serre, que les jeunes savent ce qu'ils consomment, puis que les parents qui en achèteront peut-être à leurs jeunes, même si c'est pas recommandé, vont au moins savoir c'est quoi la quantité exacte de qu'est-ce qu'il y a dans cette affaire-là. T'sais, dans le téléphone cellulaire, c'est la même affaire. Parce que le téléphone cellulaire que vous donnez à votre enfant, à votre adolescent, c'est pas vrai que vous savez ce qu'il y a dedans.
Non.
Puis je trouve que c'est pas de comparer des pommes avec des oranges. Comment il l'utilise exactement, Internet? Comment il utilise YouTube exactement? Qu'est-ce qui suit? Pourquoi on entend, dans les derniers mois, autant de montées de masculinisme? Mm-hmm. C'est parce qu'il y a des kids quelque part qui, comme Mme Gagné le disait,
ben oui,
à cachette, dans leur chambre, quand ils sont supposément sur les réseaux sociaux, sont peut-être en train de consommer d'autres choses. Puis comme n'importe quelle addiction, il y a une escalade là-dedans. Fait que ça commence par être une vidéo qui est proposée en short sur YouTube ou puis un compte Instagram. Puis après ça, ça escalade, ça escalade, ça escalade, ça escalade. C'est exactement comme de la drogue qui est achetée dans la rue. C'est pas vrai que vous savez tout le temps ce qu'il y a dans le téléphone cellulaire que votre
c'est
enfant
tellement
consomme.
Bien dit. J'aime ça, t'as entièrement raison, parce que l'algorithme s'habitue puis ben va oui, te proposer des choses en fonction d'une vidéo que tu as écoutée au complet ou non. Puis des fois, tu peux avoir le kid... Puis je reviens sur la misogynie, que juste écouter une vidéo de même, c'est donc bien con, mais là, ça en fait pousser une deuxième, une
ben
troisième,
oui,
une quatrième, une cinquième, puis à un moment donné, ah, ben là, ce qui était con devient, ben voyons, tout le monde dit ça, fait que ça doit être vrai, mais c'est pas tout le monde.
Ben
c'est
non,
certaines vidéos ciblées sur les médias sociaux.
Puis ils vont passer par autre chose aussi,
ouais,
tu sais, c'est, elle explique dernièrement, je sais pas si t'as vu, qu'elle a expliqué justement qu'elle avait tenté le coup de faire certaines vidéos en se maquillant.
Mm-hmm.
Parce que c'est tendance en ce moment sur les réseaux sociaux. Fait qu'elle a décidé de livrer l'actualité comme elle le fait,
mais
en se maquillant, pour voir si ça allait augmenter son reach. Puis le pari a été gagné, ouais, finalement, si je me souviens bien. Ça a fonctionné de cette façon-là. Fait que, tu sais, le masculinisme va passer par l'entraînement, par le sport. Par... On va tout le temps emprunter une voie là,
ben
secondaire,
oui,
là, mais pour réussir à faire passer notre message. Fait que c'est pour ça, des fois, le lien un peu boiteux avec la drogue, mais savez-vous vraiment c'est quoi les substances qui sont dans ce que le kid consomme? Je trouve que le téléphone cellulaire, c'est la même affaire. On n'est pas au courant tout le temps de ce qu'il y a
comparatif
dedans, puis je pense que c'est là qu'il faut se poser les questions. Puis à ce moment-là, est-ce que l'interdire serait une bonne solution? Pourquoi pas?
Ouais.
Puis on a d'autres pays qui l'ont fait avant nous, fait que pourquoi pas aller vers les méthodes qui ont été empruntées, prendre ce qu'il y a de bon, prendre, mettre de côté ce qu'il y a de moins bon, puis décider d'aller de l'avant. T'sais, l'Australie l'a fait il n'y a pas si longtemps
encore.
Oui,
exactement. Octobre, si je me souviens bien.
Plusieurs pays scandinaves aussi qui l'ont
c'est
déjà
ça,
fait, d'interdire les réseaux sociaux, ouais, pour les jeunes avant 16 ans pour éviter justement qu'on ait ce genre de constat-là où des jeunes filles de 10 à 14 ans se voient complètement détruire leur confiance en elles puis s'automutilent.
Ah non, ça
non,
fait aucun
c'est
sens.
Ça.
Non, on a le devoir dans notre société de protéger nos enfants. Puis malheureusement ou heureusement, des fois, ça passe justement par l'interdiction. Courte pause à Boulevard 101, l'émission On en jase. Et par la suite, justement, on continuera dans la thématique. Je veux qu'on jase d'Ozempic puis de saveurs de vapotage, qu'on ajoute ça en ligne. Comme si on débarquait au Costco.
Oui.
Après la pause, on en jase. 13h42 minutes, émission en jase. Le retour de Gravel avec Denis Véraud et Audrey qui va suivre comme à l'habitude à 14h. Et comme on est lundi, Marceau du soir est avec Marc Bellemare. Hey, Nick, je t'avais dit qu'on parlerait de la vente de produits en ligne, mais je veux changer de sujet parce que là, hors d'onde, on parlait d'école, on parlait de comment bien encadrer nos jeunes. Puis, ça me fait penser, est-ce que tu accepterais qu'un enseignant qui a été accusé et qui a plaidé coupable à des accusations d'harcèlement sexuel demeurait l'enseignant de ton enfant du harcèlement sexuel qui s'est fait à l'extérieur des murs de l'école? T'accepterais-tu ça, toi?
Non.
Non, hein, moi non plus.
Non.
Moi non plus, en tant que pape, 418-971-1021, est-ce que vous accepteriez ceci? Parce que j'ai été très surpris de la décision du tribunal d'arbitrage que sur un litige, ça opposait le Centre de services scolaires des Premières Seigneuries et le syndicat de l'enseignement de la région de Québec. Le plaignant, qui n'est pas nommé là, dans l'article, autrement dit, lui, il allait dans des salons de massage. Puis il payait pour des petits plus.
Des petits happy endings,
ouais,
qu'on appelle.
Des petits happy endings, okay, de salons de massage, parce qu'on comprend qu'il allait dans un salon de massage qui offrait ses...
Ouais.
Cette possibilité-là. Mais il est tombé amoureux.
OK.
Il est tombé amoureux de la fille qui faisait les happy endings.
Les petits massages, OK.
Mais la fille, elle, est pas tombée amoureuse de lui.
Ouais.
Mais là, il s'est mis à la harceler parce que lui, il était beaucoup, beaucoup, beaucoup en amour.
OK.
Il l'aimait beaucoup.
Okay.
Il aimait pas juste les happy endings, là. Il avait le goût de développer une relation. Ce qui fait qu'il a été arrêté le 23 août 2023. Puis l'enseignant était immédiatement suspendu par la direction de l'école. Ouais. Normal, comme tu es arrêté par la police, tu es un enseignant, on te demande d'être un modèle pour la jeunesse. Si t'es arrêté par la police, ben écoute, tu seras pas enseignant, mon ami. T'es comme, j'imagine que si demain matin t'arrives puis tu dis au frère Leclerc, « Hey les boys, inquiétez-vous pas, je viens juste d'être arrêté pour harcèlement. » Ça se pourrait qu'ils disent, ouais, Nate, sais-tu quoi, tu seras plus en onde.
Ben,
tu ne représenteras plus notre entreprise.
Puis tu. Il me semble que tu te défends pas.
Non, exactement.
De ça. Je sais pas. Ça. Tu comprends ce que je veux dire?
Ben oui.
Il me semble que tu reviens pas en faisant un peu ce que lui a fait de faire, hey, oh, ça c'était discriminatoire, puis vous aviez pas d'affaire à m'enlever mon micro, puis.
Ouais.
Ben,
tu me semble que tu n'iras pas ces médias sociaux pour dire, hey, guys! Gang d'écœurant, Leclerc Communication. Ils m'ont suspendu.
Ben non, c'est ça.
Puis là, au début, t'aurais suspendu avec salaire, puis après ça, t'aurais enlevé ton salaire, parce que c'est l'histoire du prof. Ils m'ont suspendu parce que je t'ai accusé de harcèlement, gang de cabochons. Puis là, je suis certain que le monde en dessous écrirait « Vas-y, Nate, mène ton combat. »
Ben oui, c'est ça. Il m'appuierait.
Ah oui, il
c'est sûr. Ben oui. J'aurais une armée derrière moi aussi.
Ça serait l'enfer.
Certain. Ben
ah,
oui.
Tout le monde serait avec toi. Ben c'est ça. Fait que il y a ça moi là-dedans. Il y a le fait que lui il dit ben oui, on va aller en arbitrage puisque le syndicat dit ben oui, crème à voir, let's go. Ben tabarouette. L'arbitre Alain Turcotte, ok, retenez ce nom, Alain Turcotte, il a donné raison au plaignant en disant que ça n'avait aucun lien avec son travail. Le centre de services scolaires a eu beau justifier à maintes reprises que le congédiement de l'enseignant était justifié parce que celui-ci joue un rôle d'exemple et son comportement à l'extérieur doit respecter les valeurs de la société et celles du centre de services. Ben l'arbitre il a dit non, votre congédiement n'est pas acceptable et vous allez payer 45 000 $ à ce professeur harceleur qui avait plaidé coupable parce que la preuve était trop forte contre lui pour qu'elle se défende devant le tribunal de la justice.
T'sais, on peut lire là-dedans, là, je ne sais pas si tu as lu cette partie-là, Jeff. Là. Son renvoi était fondé sur des préjugés et des exigences excessives d'exemplarité.
Hey, exigences excessives?
Okay.
Excessives, c'est excessif de demander à un employé de ne pas harceler quelqu'un. C'est pas excessif pour 2 cents.
Ça n'a pas de bon sens.
Puis ben non,
la partie préjugée, je la comprends pas. Je comprends que je suis pas avocat, je suis pas légiste non plus, là, mais était fondée sur des préjugés de quoi? On a une reconnaissance de culpabilité ici, là.
Ben exactement. Donc il y a zéro préjugé.
Il n'y a pas de préjugé. Si on présume et on décide de plaider non coupable à ce moment-là, et que là, il y a un procès et que bon, et tout le tralala. Tant et aussi longtemps le système de justice est ainsi fait, on présume. Là, le mot préjugé, je peux le comprendre, mais dans un contexte comme celui-ci, que l'arbitre dit que c'est fondé sur des préjugés, mais des préjugés de quoi?
De quoi, c'est ça. Moi, c'est
Ça serait passé quoi si le prof avait pas été suspendu? Pense à l'effet contraire. Là.
Ben oui, il aurait continué à enseigner.
Ouais.
Et là, il continue à enseigner. T'as tellement raison, pense à
il
l'effet contraire.
Quoi? Là, on a...
Il continue à enseigner, puis là, à un moment donné, dans les journaux, ça sort que le prof... Il a déclaré sa culpabilité.
Ouais.
Imagine les parents débarquer au centre de services scolaires
et dire
« gang de cabochons ».
Qu'est-ce que vous avez fait là?
Un gars qui prend des petits extras dans un centre de massage, carcèle sa massothérapeute. Vous êtes en train de dire qu'il enseigne à mon enfant aujourd'hui les mathématiques. Ça fait une tollée.
L'exigence excessive d'exemplarité, là... dont on parle, je sais pas, je connais pas ça, je sais pas qu'est-ce qui est légal ou qu'est-ce qui est pas égal dans les petits happy endings dans un salon de massage. Là. Je sais pas si on peut ça, je sais pas si c'est considéré
je
comme de la...
Je pense pas, parce que ça fait partie de l'acte d'accusation d'avoir demandé rétribution.
Parce que ça ressemble
d'avoir
quand même à de la prostitution. Ben oui, c'est ça.
C'est de la prostitution.
C'est rétribuer, c'est ça, comme tu dis, un acte sexuel. C'est quand même payer des sous pour avoir accès à du sexe. Donc, si... Hey, écoute, je me fais vraiment l'avocat du diable. Si à la limite... c'est ça, puis que les dites personnes dans le salon de massage, c'est des majeurs qui sont consentants, consentantes, peu importe c'est quoi le sexe de ces personnes-là, c'est quoi les demandes, puis toute la patente au complet. Il y a quelque chose qui n'est pas légal là-dedans. Fait que déjà, à partir de là, c'est sûr qu'il y a rencontre avec les patrons.
C'est sûr.
Puis peu importe c'est quoi le métier que tu fais, c'est la même affaire.
Ben oui,
si tu te fais pogner à te faire des petites tapounes dans un salon de massage, puis c'est pas légal, puis que les boss finissent par être au courant, c'est sûr et certain qu'il y a une rencontre avec les patrons de faire comme... Mais là, c'est parce que, tu sais, dans le cadre de ton travail. Puis je dis ça, puis c'est pas juste parce qu'on est derrière un micro. Moi, je suis pas mal persuadé que n'importe quel collègue ici, même ceux qui sont pas derrière les micros, il y aurait une rencontre avec les boss à faire comme attends un peu, là, faut qu'on mette les pendules à l'heure.
Il y a des textos qui rentrent. J'aimerais le savoir en tant que parent. En effet, ce matin, on avait des textos qui rentraient quand on en a parlé qui disaient hey, moi, là, j'ai une compagnie. J'ai déjà congédié un de mes employés parce qu'il y a mon camion Lettreuil, puis envoyé chier quelqu'un sur la route. J'ai dit non, pas de répondre mon nom pour toi, man. Ciao, bye.
Bon, mais c'est ça. Tu sais, ça reste que c'est ton image.
Ben oui, c'est ton image, c'est ton nom.
Puis là.
Tu nous verrais-tu associer. Puis tu peux pas associer un enseignant qui a harcelé une massothérapeute, puis qui a payé pour des services
là,
sexuels. Tu peux pas dire à un centre de service scolaire, à une école, ben voyons donc.
Ben là, c'est ça. C'est qu'il a payé déjà pour des actes, quelque chose qui est considéré comme étant illégal parce qu'il y a rétribution pour des actes sexuels. Puis on ajoute une couche à ça avec le fait justement qu'il a été harcelant avec la victime.
Oui. Ah non.
Mais je comprends pas où l'arbitre se dit c'est basé sur des préjugés, puis on demande à l'individu d'être exemplaire.
Moi non plus.
Parce que je te jure, si l'inverse est arrivé puis que l'individu avait pas été suspendu, de un, avec salaire en plus pendant un certain temps,
ça, là,
fait que là, ça va être correct. Tu sais, reste chez vous, mais on continue à te payer. Pff, OK? De un, si on l'avait pas congédié, cet individu-là, ça aurait explosé pas mal plus dans l'autre sens. Je comprends pas.
Moi non plus, je comprends pas.
Je peux pas croire qu'il va pas y avoir quelqu'un qui va rebrasser ça, là, cette soupe-là, là, de cet arbitre-là. Là, ça n'a pas de sens. Ouais. Là.
Christian, c'est vrai. Christian qui me ramène à l'ordre avant qu'on passe à la pause, il dit massothérapeute, tu vas faire fâcheux du monde. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être plus une masseuse.
Oui, c'est ça qu'il faut dire, je pense. Oui, ça, c'est important. C'est ça.
Une masseuse.
Oui, parce qu'il faudrait pas. Non, c'est ça. Faudrait pas salir le métier de massothérapeute qui est une profession. Pour vrai, versus masseur ou masseuse.
Non, exactement. Courte pause. Hey, on va terminer en parlant de la folie à New York. Les Knicks débarquent ce soir en avance 2-0 contre les Spurs. Jazz.
Le show que tu commences au bureau, que tu poursuis à la commande à l'auto, puis que tu finis jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.1.
Nate, pas le choix de finir cette émission d'On en jase avec une arme à feu qui a été retrouvée à l'Université Laval.
Oui, on en a parlé un peu plus tôt de plusieurs armes qui ont été retrouvées dans les écoles.
Plus de 600 dans les écoles primaires et secondaires, c'est à la une du devoir.
Mais là, on parle vraiment de l'Université Laval. C'est ce matin au pavillon Adrien Pouliot, on a déclenché une intervention du côté du service de police de la Ville de Québec. Selon les premières informations, c'est un agent de sécurité qui aurait trouvé une arme dissimulée dans le bâtiment. C'est une boîte contenant possiblement des munitions qui auraient également été saisies. Personne n'a été blessé, heureusement. Aucun suspect n'a été arrêté jusqu'à présent non plus. Les policiers qui analysent maintenant les éléments recueillis et précisent qu'aucun lien n'a été établi pour le moment avec la tentative de meurtre qui est survenu du côté du chemin Sainte-Foy la veille à proximité du campus. Ça aussi, c'est une autre nouvelle qui a fait couler beaucoup d'encre là, depuis ce matin. Je l'avais un petit peu plus.
Oui, exactement. C'est deuxième fois en quatre mois dans ce logement-là.
C'est ça, une jeune femme de 19 ans là, qui a été grièvement blessée par balle. Tentative de meurtre qui est survenue hier soir dans cet immeuble-là. La victime a été transportée à l'hôpital dans un état critique, mais son état serait stable depuis. Ce qui est particulier, c'est ça, c'est que le même logement a été visé par des tirs en février dernier dans un événement associé cette fois-ci à la violence urbaine. Le SPVQ qui enquête, mais qui ne fait pour l'instant aucun lien officiel entre ces deux affaires-là et entre la troisième, donc, qui est la découverte de l'arme du côté du pavillon de l'Université Laval.
Le retour de Gravel s'en vient à l'instant même. Nous, on se reparle demain à midi. Jeff Fortin, Nathan Meilleur, l'émission On en jase. Bon après-midi, tout le monde!
Ciao!